Europe 1, il est 5h.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Elle promet de gouverner pour tous les Italiens. Giorgia Meloni, leader de l'extrême droite italienne, revendique la victoire aux législatives. Les résultats définitifs ne sont pas encore tombés, mais la tendance se confirme. Le point dans un instant avec notre envoyé spécial européen à Rome. Budget 2023, énergie renouvelable, financement de la Sécu, programme chargé et explosif en Conseil des ministres ce matin. Le gouvernement rend sa copie sans aborder la réforme des retraites. Le financement de la Sécu qui prévoit de faire des économies en se lançant dans une chasse à la fraude sociale. Dans le viseur, les arrêts de complaisance délivrés en visio, 100 millions d'euros gâchés chaque année. Le journal de 5 heures présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Nouvelle percée historique de l'extrême droite en Europe après la Suède. En Italie, Giorgia Meloni revendique la victoire des législatives qui ont eu lieu hier.
Nous pouvons dire que les Italiens, dans ces élections politiques, ont exprimé une indication claire. Une indication claire pour un gouvernement de centre-droit dirigé par les Frères d'Italie.
Alors je vous propose donc de prendre la direction de Rome où on retrouve notre envoyé spécial européen Frédéric Michel. Frédéric, alors les résultats définitifs ne sont pas encore publiés mais on connaît les grandes tendances.
Oui, alors ce sont des résultats partiels. Vous le savez, en Italie, les bureaux de vote ferment très tard, à 23h. Il faut donc le temps de dépouiller. Et pour le moment, seul un peu plus de la moitié des bureaux de vote ont fait remonter les résultats. On a cependant déjà une idée très précise du rapport de force. Comme les sondages l'annonçaient, Giorgia Meloni obtient un peu plus d'un quart des suffrages, avec au moins 26% des voix. Ses alliés de la Ligue de Matteo Salvini et de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, font des scores modestes, entre 8 et 9%. Mais la coalition des droites est largement en tête. La gauche accuse un retard de 17 points. Le Parti démocrate et divers petits partis n'ont pas rassemblé. Le mouvement 5 étoiles en fort retrait, mais avec 14% des voix, continuera à jouer son rôle de poil à gratter. Incontestablement, la grande gagnante s'appelle Giorgia Meloni. Elle écrase tout. Elle a réussi à faire de son mouvement post-fasciste le premier parti d'Italie et s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant la première femme à diriger le pays, même si la décision finale appartient au président Mattarella, qui aura bien du mal à ne pas respecter le choix des Italiens.
Merci Frédéric Michel, envoyé spécial européen à Rome. Alors si les résultats se confirment, la leader de Fratelli d'Italia et sa coalition formée avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi réussirait un coup de force historique dans l'histoire de l'Europe depuis 1945. Pour le moment, aucune réaction officielle côté français tant que les résultats ne sont pas définitifs. Mais Jacques Serret, cette victoire de l'extrême droite risque de tendre les relations franco-italiennes.
Oui, Giorgia Meloni n'était clairement pas la candidate d'Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, le président français s'était gardé de faire tout commentaire avant l'élection. Mais ce lieutenant, comme Stéphane Séjourné, avait appelé à voter contre elle. Avec Meloni, nous craignons une Italie alignée avec la Hongrie de Viktor Orban, expliquait il y a 3 jours le secrétaire général du parti Renaissance. Il faut dire qu'Emmanuel Macron était très proche de l'ancien Premier ministre Mario Draghi. Les deux hommes s'appréciaient réciproquement. Et depuis un an et demi, Paris et Rome vivaient une lune de miel diplomatique. La France faisant de l'Italie un partenaire majeur au même titre que l'Allemagne. Avec cette élection, Emmanuel Macron perd donc son principal allié et se retrouve à la place face à une personnalité qui n'a eu de cesse de critiquer la France, notamment sur la question de l'immigration africaine en Europe. Un chamboulement dans la relation bilatérale, mais aussi un tremblement de terre à l'échelle de l'Union européenne. À Bruxelles, Emmanuel Macron perd un appui de taille et va se retrouver à devoir traiter avec un nouveau voisin eurosceptique.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Première grande épreuve du feu du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale en Conseil des ministres.
Oui, rendez-vous fixé à 10h à l'Elysée pour le gouvernement. Projet qui promet de devenir explosif à l'Assemblée si la réforme des retraites y est intégrée. Mais a priori, l'exécutif aurait renoncé. Arthur Delaborde, Emmanuel Macron veut tout de même que le chantier des retraites soit relancé très très rapidement.
Oui, la première mouture du budget de la sécurité sociale présentée ce matin ne devrait pas intégrer la réforme des retraites. Cependant, la piste d'un futur amendement n'est pas abandonnée. L'option reste sur la table, tout comme celle d'un texte spécifique en début d'année prochaine. Autrement dit, la question de la méthode n'a pas encore été tranchée. Pour savoir quelle formule sera retenue, il faudra donc patienter au moins jusqu'à mercredi. Un dîner consacré à la réforme des retraites est prévu autour du président, de la première ministre, de membres du gouvernement et de plusieurs poids lourds discours de la Macronie, dont François Bayrou. Objectif, ramener le calme dans la majorité, alors que le patron du Modem a répété tout le week-end son opposition à un passage en force via un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Des prises de position dont Emmanuel Macron doit tenir compte, même s'il est déterminé à aller vite, confie un ministre. Et s'il n'a pas encore tranché sur la forme, le chef de l'État a déjà décidé sur le fond. La réforme des retraites doit être mise en œuvre à l'été 2023, martèle son entourage.
Arthur Delaborde est au menu de ce Conseil des ministres. Également le budget 2023 et le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables.
Pour faire des économies, justement, le gouvernement veut s'attaquer aux arrêts de travail de complaisance.
Oui, le nombre d'arrêts prescrits en téléconsultation explose. Ça coûte très cher aux entreprises, mais aussi à l'État. Conséquence, ils pourraient bientôt devenir payants s'ils sont accordés par téléconsultation par un médecin inconnu du patient. C'est ce qu'a annoncé hier Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, dans le JDD. Yasmine Akatou, l'objectif, mettre fin à cette fraude massive.
Oui, le gouvernement a constaté une explosion des arrêts maladie prescrits en téléconsultation par un professionnel autre que le médecin traitant. L'année dernière, ils ont coûté près de 100 millions d'euros à l'assurance maladie, selon Gabriel Attal. Alors, il ne s'agit pas à chaque fois d'arrêts maladie frauduleux, mais certains patients abuseraient du système grâce aux plateformes de consultation en ligne, dénonce Jean-Paul Hamon. Il est docteur et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Quand vous pouvez choisir votre consultation comme vous voulez, qu'elle est remboursée, et qu'à la fin de votre consultation, vous n'obtenez pas l'arrêt de travail, eh bien, vous prenez un nouveau rendez-vous avec un autre médecin, et puis jusqu'à ce que vous obteniez un arrêt de travail de 2, 3, 4 jours ou une semaine, selon les symptômes que vous décrivez, sans que le médecin puisse vérifier.
Selon l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la mesure pourrait entrer en vigueur au 1er juin prochain. Les arrêts maladie délivrés en cabinet ou par le médecin traitant en téléconsultation seront, eux, toujours remboursés.
Yasmina Katou, et voilà un chiffre marquant pour illustrer cette explosion du nombre d'arrêts de complaisance. Selon le dernier baromètre Malakoff Humanis paru ce mois-ci, un salarié sur trois reconnaît qu'il aimerait en bénéficier, même s'il est en pleine forme, soit parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait, soit parce qu'il veut du temps pour lui.
Les hackers, à l'origine de la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes en Île-de-France, ont mis leur menace à exécution.
Oui, ils réclamaient depuis le 21 août une rançon de 10 millions de dollars, ramenée ensuite à 1 ou 2 millions. Mais la loi l'interdisant, l'hôpital n'a jamais payé. Conséquence, numéro de sécurité sociale et résultats d'examen confidentiels ont été publiés sur Internet. Les patients et membres du personnel seront avertis dans les prochains jours.
Europe 1, 5h08, aucune indulgence en Iran. Après 10 jours de révolte, le chef du pouvoir judiciaire iranien menace les manifestants.
Des manifestants qui protestent après la mort d'une jeune femme arrêtée le 13 septembre à Téhéran car une mèche de cheveux dépassait de son voile. Le dernier bilan fait état de 41 morts dans le pays.
Quasiment un an maintenant après la sortie du dernier James Bond, Mourir peut attendre. On ne connaît toujours pas l'identité du successeur de Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007.
Et non, impossible pour le moment de le savoir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que maintenant que la reine Elisabeth II est décédée, le prochain 007 sera au service du roi. Les producteurs l'ont annoncé. 60 ans après la sortie de James Bond contre Dr No, le tout premier film de la saga, Amazon prépare un programme autour de l'agent le plus célèbre du monde, Marie Jiquel.
Une nouvelle mission se prépare sans Daniel Craig, acteur le plus endurant dans le costume de James Bond pendant 16 ans, et sans la reine d'Angleterre.
Il y a pas mal de références dans les films qui renvoient un petit peu à la reine, même si on ne la voit jamais.
Laurent Perriot, spécialiste de James Bond.
Les avant-premières des James Bond sont devenues des premières royales, où très souvent la reine se rendait en personne lors de la première du film.
On connaît le successeur d'Elisabeth II, mais qui pour incarner l'agent 007, personnage très rentable, le dernier opus a engrangé 700 millions de dollars de recettes.
Il y a plusieurs noms qui sont balancés par les tabloïds anglais, Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hiddleston, Jamie Dornan.
Enfin, concernant l'intrigue, les bouleversements de notre monde, comme la guerre en Ukraine, seront-ils de la partie?
Les James Bond ont souvent collé à la géopolitique où l'on parfois anticipait. Par exemple, à l'époque du monde ne suffit pas en 99. C'est une histoire de contrôle aussi des puits de pétrole et de gaz qui viennent d'Azerbaïdjan, vous voyez.
60 ans après Sean Connery et son ennemi, le Dr No, renaître peut bien attendre pour l'éternel agent secret.
Marie Jiquel. Et puis une petite information qui a de l'importance quand même. On vient d'apprendre que c'est la chanteuse Rihanna qui va assurer le show de la mi-temps au prochain Super Bowl.
Ah, on parle plus de James Bond.
Ah non, c'est l'événement le plus regardé aux États-Unis. Ce sera le 12 février prochain dans l'Arizona. Un retour très très attendu pour les fans de Rihanna puisque ça fait 6 ans qu'elle n'a pas sorti d'album.
6 ans, comme le temps passe vite.
Et oui.
Merci Alban Le Prince, 5h10.
Et on passe au sport, parce qu'on vient d'évoquer le Super Bowl, l'un des événements les plus vus au monde d'ailleurs. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre,
bonjour Dimitri.
Alors c'est pas du football américain, c'est du football, du soccer pour commencer, avec ce revers de l'équipe de France en Ligue des Nations hier soir.
Et oui, une défaite 2-0 face au Danemark, dans un match où les Bleus semblaient inexistants. Et comme dernière prestation avant la Coupe du Monde au Qatar, c'est très inquiétant. L'attaquant tricolore Antoine Griezmann le reconnaît, c'est un match à oublier.
Je pense qu'on a fait 30 premières minutes où on était en train de bien jouer. Après, on a eu d'énormes problèmes sur les corners. Et après, on prend ce but qui nous fait mal. Et après, le public pousse. Mais voilà, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces.
Antoine Griezmann au micro européen de Cyril Delamorinerie. Seul point positif de la soirée pour nos Bleus, le maintien dans le groupe d'élite de la Ligue des Nations, puisque de son côté, l'Autriche s'est inclinée 3-1 face à la Croatie. Croatie, première du groupe qui se qualifie pour la phase finale de la compétition, tout comme les Pays-Bas dans le groupe 4, grâce à leur victoire 1-0 contre la Belgique.
Rugby, à présent, le Stade Rochelais s'est incliné pour la première fois de la saison.
Et oui, une défaite hier soir face à Clermont 22-13 pour le dernier match de cette quatrième journée du top 14. La malédiction continue donc pour La Rochelle qui n'a jamais réussi à s'imposer dans son histoire sur la pelouse des Jeunards. L'ex-Rochelais Jules Plisson, auteur d'une belle prestation, savoure cette belle victoire clermontoise.
Ce match-là, on voulait absolument pas le perdre. Je vous avoue qu'on avait pas mal de pression parce qu'on connaît la qualité de cette équipe rochelaise. Et voilà, il fallait qu'on gagne ici. La manière, je ne sais pas, mais en tout cas, l'état d'esprit, je crois qu'il est irréprochable et c'est le principal.
Jules Plisson au micro de nos confrères de Canal+. Avec cette défaite, La Rochelle lâche la première place du classement. C'est désormais Toulouse qui est en tête du championnat.
Cyclisme, Dimitri, on connaît désormais le nouveau champion du monde.
Et oui, grâce à sa victoire hier, c'est le prodige belge Remco Evenepoel qui devient champion du monde. À 22 ans, il succède à notre français Julien Alaphilippe qui n'a donc pas fait le coup triple. Mais le bilan de ces mondiaux est une nouvelle fois plutôt positif pour l'équipe de France, avec 2 médailles d'argent obtenues, comme nous l'explique le directeur technique national à la Fédération française de cyclisme, Christophe Manin.
On est toujours à se plaindre du niveau des Français parce qu'on se focalise sur le Tour de France. Mais quand on regarde le ranking international et on est troisième au niveau des nations, ça veut dire que les Français marquent des points tout au long de la saison et ça se traduit par les résultats sur les champions du monde. On est une nation qui compte vraiment en cyclisme sur route.
Et Christophe Manin, joint par Axel May.
On termine par du basket, Dimitri, avec la Coupe du Monde féminine qui continue pour nos Bleus aujourd'hui.
Et oui, après leur victoire face au Mali, les Bleus souhaitent continuer sur leur lancée, mais pour cela, il faudra batailler face aux Japonaises, un adversaire qui leur a rarement réussi. 5 défaites pour seulement une victoire tricolore. C'est donc un sacré défi pour nos Bleus qui, en cas de victoire, prendraient une très bonne option pour une qualification en quart de finale de la compétition. France-Japon, un match à suivre aujourd'hui à 8h.
Dimitri Vernet pour les sports. Merci, on passe aux courses à 5h13 avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Lyon-Paris et mon pari gagnant sera le 705 Last Winner. Aussi à l'aise corde à droite que corde à gauche. Quelle que soit la surface empruntée, cette trotteuse entraînée en Belgique effectuera un très long déplacement jusqu'à Lyon-Paris avec la confiance de son propriétaire entraîneur-driver Nico Daens. Et il est vrai que cette jument vient de s'imposer de peu, mais avec la manière le 14 septembre sur l'hippodrome de Reims, elle n'aura qu'à répéter la valeur réalisée ce jour-là pour pouvoir ici doubler la mise. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Lyon-Paris, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 5, Last Winner.
Merci Thierry Léger, on découvrira vos pronostics du quintet dans une demi-heure. 5h14, de la glace qui ne fond pas. Est-ce que vous y croyez? C'est l'histoire dingue d'Anissa Haddadi, dans un instant sur Europe 1. Ding, ding, ding.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Très bon réveil, bon lundi, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Alors Anissa, ce matin, vous allez peut-être révolutionner nos futurs avec votre histoire dingue du jour.
Oui, oui, dès que les beaux jours sont là, que les températures grimpent et que nous sommes en vacances, il y a un plaisir que nous sommes nombreux à aimer. Ce plaisir, souvent on l'entend, il vient de loin avec cette petite musique pour ceux qui l'ont connu. Ce plaisir, c'est manger des glaces. Mais nous avons tous vécu la même chose en plein été, avec nos enfants.
Ah oui.
La glace, ça fond. Et ça peut même très vite se transformer en catastrophe.
Ah bah, bien, en pleine canicule, 30 secondes. Hein.
C'est cata.
Ça fond, ça colle.
Sur les mains, sur les joues, sur le menton, il y en a partout. Mais même pour nous, les adultes, oui, hein, vraiment, c'est pas très cool parfois. Eh bien, ce matin, je vous annonce une révolution, une prouesse technique et scientifique qui va tout changer. Ça ne date pas d'hier. D'abord, en 2015, ça s'est fait en plusieurs étapes, cette histoire. En 2015, on a des scientifiques écossais qui ont découvert une nouvelle protéine qui serait capable de retarder le processus de fusion quand il fait chaud et du coup qui pourrait éviter que les liens entre l'eau et les bulles d'air se dissolvent.
Donc vous êtes en train de nous dire que les glaces pourraient ne plus fondre.
Eh bien oui, c'est dingue,
une révolution.
Mais c'est le principe de cette chronique tous les matins à 5h15. C'est dingue, mais c'est ça, effectivement. Grâce à la découverte écossaise, des scientifiques japonais du groupe Nakasho ont été encore plus loin. Et ils ont également découvert de leur côté que lorsque l'on rajoute une protéine naturelle comme les polyphénols, qui sont présents par exemple dans les fraises, eh bien ça retarde encore plus la fonte de la glace.
C'est révolutionnaire. J'entends des gros mots, hein. Polyphénol, je ne sais pas si c'est aussi bon. Est-ce qu'on pourra en tout cas les goûter, ces glaces ?
Les polyphénols, ils ne sont pas franchement mauvais tant qu'ils sont naturels et qu'ils sont présents dans les fruits. Après, c'est quand on les rend scientifiques et qu'on les invente, ces polyphénols, là, ce n'est pas terrible. Alors oui, on va pouvoir les voir. Il faut savoir déjà, Alexandre, je vois que vous êtes pressé, il faut savoir que cette glace unique, elle tient une heure sans fondre. Parce que moi, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, mais mettons-la dans les glaciers.
Non, mais c'est de la glace ou du savon, votre histoire.
Empêchons les glaciers de fondre.
C'est ça.
Mais non, ça ne tient qu'une heure. Voilà, ça ne tient qu'une heure sans fondre, mais c'est déjà pas mal. Cette glace, elle s'appelle ZUT. ZUT.
Bah, décidément.
Elle est commercialisée pour le moment uniquement au Japon. Elle est vendue 6 euros. Il y a 3 parfums qui existent, qui ont été mis au point cet été, chocolat, fraise, yaourt. Et l'entreprise Nakasho, qui a inventé cette glace qui ne fond pas, est une entreprise à la base spécialisée dans les repas à destination des maisons de retraite. Et bien cet été, Nakasho a déjà fourni en premier les maisons de retraite japonaises, car on le sait, les personnes âgées risquent des fausses routes quand il fait très chaud et qu'ils doivent s'hydrater. Alors on préfère leur donner de la glace, parfois même juste à l'eau, hein, pour s'hydrater. Les maisons de retraite japonaises ont découvert cette glace qui ne fond pas cet été, en attendant l'arrivée chez nous, peut-être pour l'été prochain, de ces nouvelles glaces qui ne fondent plus.
Bon, ça fond dans la bouche quand même au bout d'un moment.
Ah bah oui, bien sûr, sinon, et le goût est là.
Sinon c'est problématique.
Fraise, chocolat, yaourt, ça vous va? Moi, les 3 premiers parfums.
On prend les 3. 3 boules, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup Anissa Haddadi, on vous retrouve dans un quart d'heure, un peu moins de...
Ouais, enfin dans pas longtemps là.
12 minutes pour la météo, merci.
Europe Matin.
5h18, les titres de ce lundi 26 septembre sur Europe 1, Alban Le Prince.
La coalition droite-extrême droite italienne en passe de décrocher la majorité au Parlement. Au terme des législatives qui se sont déroulées hier, ce serait pari réussi pour Giorgia Meloni, leader de Fratelli d'Italia, selon un sondage de sortie des urnes. En Iran, le chef du pouvoir judiciaire menace de ne faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis des manifestants qui dénoncent depuis 10 jours la mort d'une jeune femme arrêtée car une mèche de cheveux dépassait de son voile. Le dernier bilan fait état de 41 morts. À Paris, mobilisation de soutien aux Iraniennes. Hier, 4000 personnes y ont participé, selon la préfecture de police. Les agents ont fait usage de gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants de rejoindre l'ambassade d'Iran. Et puis en Russie, Vladimir Poutine tente le tout pour le tout. Il vient de signer un texte ce week-end punissant la reddition de 10 ans de prison. Il propose aussi aux étrangers un passeport en échange d'un contrat d'un an dans l'armée.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Très bon réveil sur Europe 1 avec les initiatives en France à 5h19. Au début du mois, on vous présentait une machine capable de redonner vie au pain rassis. Une fois transformé en poudre, il permet à votre boulanger de faire des pâtes à pizza ou des muffins. Eh bien voici ce matin une autre idée ingénieuse pour valoriser le pain dur.
Bonjour Florian Colomb.
Bonjour.
Vous êtes adjoint aux finances à la mairie de Mulhouse, en Alsace. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et donc, dans votre ville, Florian Colomb, on ne jette plus le pain, on le transforme en électricité verte. Racontez-nous comment c'est possible.
Alors, effectivement, à Mulhouse, sur le secteur manufacture sur lequel je suis adjoint référent, il y a eu une initiative citoyenne et participative que l'on a accompagnée et qui visait justement à trouver une solution, je dirais, innovante au traitement des déchets sauvages de pain qu'on a pu constater sur certains quartiers. Voilà, les gens ne voulaient pas jeter le pain à la poubelle, donc ils préféraient le mettre dans la nature en disant que ça va servir aux animaux, en sachant que du coup, indirectement, on avait un certain nombre de nuisances qui sont arrivées avec des rats, des corbeaux, des pigeons et autres. Et donc le conseil participatif Manufacture s'est penché sur cette question et a imaginé cette idée de boîte à pain qui fonctionne comme un collecteur, où les habitants, plutôt que de jeter le pain à l'extérieur, le déposent à l'intérieur de ces conteneurs et charge à nous ensuite de donner une seconde vie à ce pain qui n'est ni jeté dans la nature, ni jeté donc à la poubelle.
C'est un conteneur qui se présente comme un conteneur de bouteilles de verre, hein, voué à être recyclé, c'est à peu près ça. C'est l'idée.
Voilà, disons, dans la conception, c'est à peu près ça, tout à fait.
D'accord. Et ce sont des pains, évidemment, qu'on dépose non emballés. On les dépose comme ça, pas dans des sacs
voilà,
plastiques, pas dans du papier.
C'est ça, exactement. Il faut que ce soit le pain en tant que tel, déposé à l'intérieur de ces boîtes.
Il est ramassé, ce pain, une fois par semaine, hein, c'est ça? Et par une association?
Alors, initialement, c'était le schéma, sauf que l'on a été victime de notre succès sur le début de l'été. Et on a donc dû procéder à des ajustements durant l'été 2022. Et maintenant, face à l'ampleur, je dirais, que ça a pris, on est passé à 2 collectes par semaine parce que les gens se sont saisis de ces outils et ont plus que joué le jeu. Initialement, on tablait sur effectivement 1 collecte par semaine, mais on a dû très rapidement en passer par 2. Quoi.
Et à l'origine également, Florian Colombe, ce pain récolté était destiné à nourrir les bêtes des agriculteurs de la région.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que le projet, lorsqu'on l'a conçu initialement, était destiné donc aux animaux des fermes aux alentours, en fonction de ce que les fermiers voulaient bien prendre ou voulaient bien accepter. Mais face, là aussi, je dirais, à des contraintes logistiques et l'ampleur que ça a pris, bah, même les fermiers n'ont pas forcément pu suivre derrière. Et donc, on a dû trouver une autre solution. Alors, on s'est tourné vers la méthanisation, qui justement donnait des perspectives que vous avez décrites en termes de renouvellement de ce pain, en termes d'usage. Mais on avait aussi un autre avantage, c'est que le pain qui était déposé n'était pas forcément 100% exploitable pour les animaux de la ferme. Il y avait des contraintes en termes d'hygiène et d'usage du pain qui étaient bien spécifiques. Et dans la conception initiale, seulement 1/3 du pain servait finalement aux fermiers, alors que là, en l'état actuel, avec la méthanisation, on a beaucoup moins de contraintes sur le pain et 100% du pain qui est déposé va à la méthanisation. Je prends un exemple concret. Si vous aviez du pain qui était un petit peu moisi, on ne pouvait pas le donner aux animaux, forcément. Si vous aviez du pain où il y avait des résidus un peu d'aliments à l'intérieur, des traces de sauce ou autre, on ne pouvait pas le donner aux animaux, alors que là, maintenant, dans la méthanisation, tout peut aller servir la seconde vie de ce pain sans aucun souci. Et on a plus cette contrainte de tri sur ce qui peut ou pas aller dans la seconde vie. Quoi.
Vous répondez donc à 2 problématiques, Florian Colombe, la lutte contre le gâchis alimentaire et la production d'énergie verte qui est essentielle aujourd'hui.
Oui, tout à fait, exactement. C'est vraiment une logique qui se veut vertueuse à bien des égards. Premièrement, on arrête et on réduit significativement une nuisance. Deuxièmement, on trouve une idée de recyclage en termes de seconde vie. Et troisièmement, on a quelque chose qui est produit de manière éco-responsable, pour manière plus large pour la collectivité. Donc effectivement, c'est quelque chose de très vertueux sur tous ces aspects-là, à la fois parce que les habitants n'ont plus les nuisances des dépôts sauvages de pain, parce qu'ils ont là le sentiment juste de faire un acte citoyen, et parce que derrière, il y a effectivement une utilité qui est donnée à ce pain.
Ces boîtes à pain se trouvent uniquement dans le quartier manufacture pour le moment. Il y en a 4, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Effectivement, il y en a 4 dans le secteur manufacture parce que c'est une initiative donc, du Conseil participatif manufacture accompagné par l'Agence de la participation citoyenne. Et je voulais souligner leur travail parce que durant tout l'été, il y a eu beaucoup d'ajustements et beaucoup de travail qui a été fait avec les habitants, avec les instances participatives, mais surtout aussi avec l'Agence de la participation citoyenne. Donc effectivement, 4 boîtes à pain sur le secteur manufacture parce que c'est une initiative citoyenne. Mais d'ores et déjà, je sais que d'autres personnes dans Mulhouse réfléchissent à un moment donné pour leur quartier, leur secteur, à mettre cela en place. Et on a déjà eu des prises de contact, que ce soit d'élus ou d'habitants de la couronne mulhousienne, qui ont entendu parler de ces projets-là et qui réfléchissent eux aussi à mettre en place un tel dispositif à leur niveau. Juste pour donner un ordre de grandeur, pour vraiment se rendre compte de l'ampleur, depuis le début du mois de juillet où nous avons mis en place ces boîtes à pain jusqu'à début du mois de septembre où on a pu faire un premier bilan, c'est 6600 litres de pain qui ont été collectés juste sur ces 4 boîtes à pain et sur une période d'environ 2 mois. Quoi. Donc c'est effectivement quelque chose de significatif en sachant qu'on pouvait largement espérer encore avec le doublement des collectes et le fait que ça redevienne de plus en plus dans les habitudes et les usages dans le quartier, bah, que ce chiffre prenne encore un peu plus d'ampleur. Quoi.
Merci beaucoup Florian Colomb de nous avoir accordé cette interview. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes adjoint à la mairie de Mulhouse, adjoint aux finances précisément à la mairie de Mulhouse, et dans votre ville, on peut donc recycler son pain rassis et le transformer en électricité verte. Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
À la une de l'actualité, le séisme politique annoncé a bien eu lieu. La droite ultra-conservatrice remporte les législatives en Italie. Giorgia Meloni arrive en tête avec plus de 20% des voix. Elle revendique le poste de première ministre. En Russie, en revanche, rien ne se passe comme prévu. La mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine est loin de susciter un élan populaire. Moscou reconnaît des erreurs et craint le retournement de l'opinion publique. Dans ce journal également, les suites de l'affaire du chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne. Le conseil municipal du jour s'annonce très tendu pour le maire Gaël Perdriau. Le journal de 5h30 avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rien n'y a fait, ni les appels à faire barrage venant de la gauche italienne, ni les avertissements lancés par la présidente de la Commission européenne n'ont empêché la droite ultra-conservatrice de remporter les législatives en Italie. La coalition emmenée par Giorgia Meloni obtiendrait 47% des voix. Son parti Fratelli d'Italia arrive en tête avec au moins 22% des suffrages. Giorgia Meloni a aussitôt revendiqué le poste de Premier ministre et promis de gouverner pour tous les Italiens. On l'écoute.
Objectivement, nous avons vécu une campagne électorale qui n'a pas été belle, dans laquelle les tons étaient exagérés. Une campagne électorale violente, une campagne électorale agressive. Cependant, je pense que la situation dans laquelle est l'Italie, ainsi que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne, est une situation particulièrement complexe à laquelle nous devons faire face. Une situation qui demande, disons-le, la contribution de chacun, qui requiert un climat serein et un respect mutuel qui est à la base de tout système démocratique.
Del confronto in qualsiasi sistema democratico.
Giorgia Meloni, présidente de Fratelli d'Italia, qui vient de remporter les législatives. Une victoire saluée par les premiers ministres hongrois et polonais qui adressent leurs félicitations à la gagnante. C'est une leçon d'humilité pour l'Europe et sa présidente Ursula von der Leyen, tweet Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Pour le communiste Fabien Roussel, cette catastrophe doit provoquer un sursaut à gauche en Europe.
En Russie, la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine est-elle en train de faire basculer l'opinion publique ?
Difficile de fournir les chiffres précis, mais les images de l'aéroport de Moscou ou du poste frontière avec la Géorgie sont terribles pour Moscou. Des milliers de Russes tentent d'échapper à la mobilisation pour aller faire la guerre en Ukraine. Manifestations et arrestations se multiplient. Bonjour Nicolas Tonev.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Ancien correspondant d'Europe 1 à Moscou et spécialiste de la Russie, on va rester prudent une fois de plus Nicolas, mais le lien qui unit Vladimir Poutine et sa population est-il fragilisé ?
Oui, parce que la maîtrise de Poutine depuis son arrivée au pouvoir repose sur deux piliers. Le premier, la promesse de stabilité après le chaos de la Yeltsin. Son mantra, tant que je suis là, le pays marche droit, fonctionne bien et est respecté sur la scène internationale. Deuxième pilier, avec moi, vous gagnez mieux votre vie et cela s'est avéré pour les Russes des villes essentiellement, avec pour symbole la quasi-disparition des rues des vénérables Ladas et une classe moyenne partant en vacances à l'étranger. En échange, les Russes devaient accepter de se taire et laisser le maître du Kremlin organiser le pays à sa guise. Et le 24 février et l'invasion de l'Ukraine ont donc rebattu les cartes. Moins de liberté pour les Russes, une inflation galopante, la stabilité synonyme de tranquillité remise en cause avec la crainte de nombreux morts à venir. Cela fait un gros coup de canif dans le contrat, d'autant que la population, et c'est paradoxalement une réussite poutinienne, la population est très connectée, plus de 160 mobiles pour 100 habitants et les Russes ont donc la possibilité technique de contourner la propagande pour s'informer.
Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie pour Europe.
Une présentation très attendue ce lundi. Le gouvernement examine le projet de loi sur le budget 2023.
Présentation en Conseil des ministres. Trois textes à l'examen. Le projet de loi de finances, le budget de la sécurité sociale et les énergies renouvelables. Pas de trace à ce stade d'une quelconque mesure concernant la question des retraites. Pas un mot sur la réforme, même si dans ses différentes déclarations, l'exécutif maintient sa volonté d'une réforme avant l'été 2023.
À Corbeil-Essonnes, le maire va se
rapprocher des patients et du personnel de l'hôpital afin qu'ils puissent porter plainte.
Et ce sont les criminels qu'il faut poursuivre, pas l'hôpital qui est victime, explique Bruno Piriou. Les hackers ont donc mis leur menace à exécution, faute d'avoir reçu la rançon exigée. Près d'1,5 million de données ont fuité sur le dark web, réseau internet parallèle. Elles contiennent des informations très sensibles comme le numéro de sécurité sociale des patients ou encore des comptes rendus d'examen, William Molinier.
Oui, c'est une façon pour les hackers de mettre la pression sur l'hôpital. Diffuser une partie des données volées leur permet de montrer qu'ils sont capables de le faire. Les pirates misent sur le fait que la victime finisse par craquer et paye au moins une partie de la rançon. Rançon qui d'ailleurs à l'origine était à 10 millions de dollars. Elle a été ramenée à 2 millions. Le premier pour détruire les données volées, l'autre moitié en échange d'une clé de déchiffrement pour que l'hôpital ait à nouveau accès à son système d'exploitation. Cette prise d'otage de données numériques sur un établissement de santé est assez inédite, au moins par la longueur de sa phase de négociation, puisqu'elle dure depuis le 21 août dernier. Selon nos informations, des négociateurs du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, ont été associés à l'enquête. À ce jour, les gendarmes ont identifié la signature de l'attaque informatique, tout comme les hackers, des maîtres chanteurs du groupe de rançonneurs Logbit 3.0. Ce groupe criminel russophone revendique une centaine de pirates dans le monde entier. Ils auraient, depuis le 1er septembre dernier, attaqué près de 150 entreprises sur Internet.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
À Saint-Étienne, c'est un conseil municipal sous tension qui doit se tenir aujourd'hui sur fond de chantage à la vidéo intime.
Le maire Gaël Perdriau fait partie des principaux accusés dans cette affaire. Il aurait cherché à faire chanter l'un de ses adjoints, jugé trop incontrôlable. L'élu Les Républicains s'est mis en congé de la présidence de la métropole, une prise de chant qui ne vaut pas démission. Il n'a pas davantage l'intention de quitter son fauteuil à la mairie. Et ce premier conseil municipal post-révélation promet d'être houleux, Jean-Luc Boujon.
Gaël Perdriau ne pourra pas faire comme si de rien n'était. En effet, impossible pour lui d'aborder les 103 questions de l'ordre du jour sans au préalable évoquer l'affaire qui secoue sa ville depuis un mois. D'ailleurs, les élus d'opposition, au premier rang desquels le socialiste Pierrick Courbon, ont prévu d'interpeller le maire.
Il y a des explications qu'il doit aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Nous voulons avoir des réponses sur l'affaire en cours. Nous, ce qu'on demande, c'est pas simplement que Gaël Perdriau n'ait plus sur le terrain participé à des inaugurations, mais qu'il se mette véritablement en retrait de toute la gestion de la ville.
Sauf que pour l'instant, le maire de Saint-Étienne reste droit dans ses bottes, malgré sa garde à vue il y a 2 semaines, malgré la démission il y a 3 jours de l'adjoint à l'origine du chantage, l'un de ses proches. Gaël Perdriau fait front et ne compte pas démissionner, assure Marc Chasseau-Bénet, son adjoint à la culture.
Pas de démission et pas de retrait. Il est extrêmement combatif parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui démontrent que l'affaire n'est pas ce qu'elle est, que peut-être les accusés deviendront accusateurs demain. Et voilà, je crois que c'est des choses qui aujourd'hui donnent beaucoup de courage.
Le maire de Saint-Étienne qui devra aussi faire face au mécontentement des habitants avec 2 manifestations organisées cet après-midi pendant le conseil municipal sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Il est assez rare de refuser un prix, et bien c'est pourtant ce que vient de faire Belle-Île-en-Mer.
Trop de tourisme tue le tourisme. La commune vient d'être distinguée pour la qualité de son sentier. Le GR340, c'est son nom, vient d'être élu sentier de grande randonnée préféré des Français. Ce trophée pourrait faire la fierté des habitants et des élus, mais c'est tout le contraire. L'île, qui a connu un pic de fréquentation cet été, le voit comme une menace pour l'environnement. Depuis, eh bien le sujet est devenu hautement inflammable, Alexandra Gégy.
Oui, c'est une véritable omerta face à cette décision. 4 jours pour enquêter, quand j'appelle la mairie, pas de réponse. Même chose à la communauté de communes et les associations de défense de l'environnement disent ne pas pouvoir communiquer. La première à s'exprimer, c'est Nicole Lenoble de l'association Savoir-faire des îles du Ponant. Elle comprend cette décision visant par ricochet à contrôler la fréquentation du sentier.
Il y a un manque de respect énorme au niveau des randonneurs. Quand on va se promener, il y a des papiers de toilette partout, c'est sale.
Alors, présenter les randonneurs comme pollueurs et trop nombreux ne passe pas auprès de Madeleine Lebranchu, présidente de la Fédération Morbihanaise de Randonnée. Pour elle, il faut chercher les responsables du surtourisme ailleurs.
Notre sport, c'est le souci de préserver, de ne pas déranger. Mais est-ce que tous les touristes qui viennent à Belle-Île sont des randonneurs? On peut peut-être s'interroger.
Alors, interrogeons-nous. Des refus de parler et des réponses sibyllines. Et en sous-texte, peut-être simplement une évolution du monde du tourisme qu'évoque Audrey, vendeuse de glace sur l'île depuis 7 ans.
Il n'y a pas que des randonneurs qui viennent à Belle-Île. On voit des Tesla, des Porsche, on en voit de plus en plus. Ce ne sont pas les mêmes porte-monnaies qui viennent à Belle-Île en mer qu'avant, quoi.
Est-il question de bons ou de mauvais touristes sur l'île? Le débat est donc lancé, mais pour le moment, aucune mesure n'est prise pour réguler la fréquentation.
Alexandra Gégy.
Les sports, l'équipe de France de football ne s'est pas vraiment rassurée hier soir face au Danemark.
Une défaite 2-0, on a fait mieux pour préparer un mondial à 2 mois du rendez-vous planétaire au Qatar. Les Bleus présentent un bilan famélique, une victoire en 6 matchs. Enfin, en rugby top 14, Clermont a battu La Rochelle 22-13. Il s'agissait de la 4e journée de l'élite du championnat élite rugby. En basket, eh bien, les Françaises peuvent décrocher leur qualification pour les quarts de finale du mondial ce matin face au Japon. Coup d'envoi à 8h. Mais attention, face aux Japonaises, c'est loin d'être gagné d'avance.
Ça ne sera pas de la tarte.
Non, ça
sera
difficile.
5h39. Merci Christophe Lamarre. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome de Lyon-Paris que va se courir ce quintet. Une course aux trois attelés qui réunira 16 chevaux répartis sur 2 poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, visiblement au mieux. Et idéalement engagé, Eliska Duberry, le numéro 16, sera sans hésitation ma favorite. Elle sera en plus drivée par Serge Pelletier, l'une des meilleures mains du centre-est, avec lequel elle s'est déjà imposée à 4 reprises en seulement 7 tentatives. Face à ce tandem particulièrement performant, je vous propose les numéros 2 d'Amour de Magny, qui possède des références solides sur le parcours qui nous intéresse. 5. Escapade du Dijon, déférée cette fois des 4 pieds, une configuration où elle n'a quasiment jamais déçu. Et 13. Élan Baroque, pour lequel son entraîneur-driver Loris Garcia ne m'a pas caché sa confiance, au moins pour une place. Enfin, les numéros 14, Evita Perron, 12, et Rose du Fossé, 7, Dexter Blue et 11, Elixir du Rabutin compléteront ma sélection. Mon pronostic, 16, 2, 5, 13, 14, 12, 7 et 11.
Merci beaucoup Thierry Léger. Tous ces pronostics sont sur europe1.fr.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Et voici à présent le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Emmanuel Macron va lancer dans quelques jours une consultation citoyenne sur la fin de vie. L'avis du comité d'éthique ouvre la perspective d'une loi qui autoriserait le suicide assisté. Un débat qui a véritablement émergé il y a 19 ans à la suite d'un dramatique événement. Bonjour Céline Géraud.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
26 septembre 2003, la mort du jeune Vincent Humbert provoque une onde de choc dans toute la France. 2 jours plus tôt, sa mère lui a injecté une forte dose de barbiturique et elle n'a pas choisi cette date au hasard.
Effectivement, Marie Humbert passe à l'acte 3 ans, jour pour jour, après l'accident de la route qui a plongé son fils de 19 ans dans un état désespéré. Vincent est tétraplégique, aveugle et muet, mais avec toutes ses capacités intellectuelles. Et malgré les séances de rééducation au centre héliomarin de Berck-sur-Mer, les médecins ne lui laissent aucun espoir d'amélioration. 48 heures avant de mettre fin au jour de son garçon, Marie Humbert se confie en exclusivité sur notre antenne au micro de Marc Messier.
Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est insoutenable au départ. Une mère, elle ne peut pas, on se dit non. Il faut comprendre que Vincent m'a tellement expliqué les choses en me disant « tu m'as mis au monde par amour et je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas me tuer par amour. Ou alors si tu ne veux pas m'aider, c'est que tu ne m'aimes pas. »
Ce droit de mourir, 9 mois plus tôt, Vincent Humbert l'avait demandé au président de la République, Jacques Chirac, comme le raconte notre reporter Guillaume Porteux pour Europe 1.
Cette lettre, Vincent en a eu l'idée seul, immobile sur son lit d'hôpital. Grâce à son pouce, la seule partie de son corps qu'il parvient à bouger, Vincent a dicté le texte à une éducatrice. « Vous êtes ma dernière chance, vous avez le droit de grâce, moi je vous demande le droit de mourir », dit ainsi le jeune homme à Jacques Chirac.
Mais Jacques Chirac lui oppose une fin de non-recevoir et Vincent décide alors de s'en remettre à sa mère pour en finir avec la vie.
Et le jour même du décès de Vincent Humbert, Céline, les députés ouvrent une mission d'information sur l'accompagnement de fin de vie.
Oui, et ces débats ont une résonance toute particulière pour le médecin Bernard Kouchner. 6 mois plus tôt, l'ancien ministre de la Santé vient de faire adopter une loi qui porte son nom sur le droit des malades. Et le jour de la mort de Vincent Humbert, il est interrogé sur la fin de vie par Jean-Pierre Elkabbach.
Je souhaiterais qu'on se passe d'une loi, mais ça n'est peut-être pas possible. Je me suis peut-être trompé. Je crois qu'il faut quand même que l'on ouvre les yeux et qu'avant de mourir, on soit une fois adulte. Mais à la fin, la question se pose, à qui appartient la vie ?
Et ce n'est que 19 mois plus tard, le 22 avril 2005, que la première véritable loi sur le sujet est promulguée, la loi Leonetti, qui interdit l'acharnement thérapeutique sans toutefois légaliser l'euthanasie.
Merci beaucoup Céline Géraud. Le jour où revient demain sur Europe 1.
5h44, lundi matin, très bon réveil à tous. À suivre, une plongée dans l'Égypte antique avec une très belle exposition à partir de jeudi à Lyon. Le tombeau de Toutankhamon reproduit grandeur nature. Visite guidée dans un instant sur Europe 1.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
De l'évasion à une très belle page d'histoire à présent ce matin sur Europe 1. Une exposition hors norme va ouvrir ses portes ce jeudi à Lyon, Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié. C'est à voir à la Sucrière, plongée au cœur de l'Égypte antique. Avec votre invité Alexandre, c'est Cédric Moulard de la société Tempora qui présente cette exposition.
Bonjour Cédric Moulard.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, je pense à tous les passionnés d'archéologie, à tous les petits égyptologues en herbe, mais aussi à tous les curieux néophytes comme moi. On a tout de suite envie de prendre un billet pour Lyon si on n'a pas la chance d'être déjà lyonnais. On va commencer par le clou de l'expo, hein. Vous reproduisez le tombeau de Toutankhamon à l'identique grandeur nature. C'est vraiment en fait comme si on y était.
Exact. En fait, l'exposition qui est présentée par Tempora est un parcours narratif et pédagogique qui fait la part belle à l'immersion à travers des décors somptueux. Et un de ces décors, c'est évidemment la reproduction avec minutie et beaucoup de rigueur scientifique du tombeau tel que découvert il y a 100 ans par Howard Carter. Et il s'appuie en fait sur ce qu'on appelle des facsimilés, c'est-à-dire des reproductions minutieuses des pièces originales qui ont été retrouvées dans le tombeau, des reproductions fidèles qui sont en fait issues identifiées par le ministère des Antiquités égyptiennes. Et donc voilà, Tempora et Europa Expo, on a voulu les présenter de manière sympa et accessible pour tous.
Ouais, on rappelle l'âge du tombeau, 3300 ans. Alors pendant cette visite,
exact,
on peut tout voir à l'identique, hein. C'est une reproduction des peintures murales qui ornent l'intérieur du tombeau de Toutankhamon. Et là, Cédric Moulard, on parle quand même de 3 chambres funéraires qu'on peut donc traverser pendant la visite, hein.
Exact, on parle de 3 chambres funéraires vraiment reproduites à l'identique, mais ce ne sera pas tout. Il y aura aussi une reproduction du palais d'Amarna dans lequel Toutankhamon a passé une partie de son enfance. Des ateliers de Toutmose, qui était le sculpteur officiel de son père Akhenaton, qui a réalisé notamment le buste de Nefertiti. Donc voilà, c'est vraiment une plongée dans l'Égypte ancienne et en fait une double histoire croisée. On va vraiment aborder l'enquête menée par Howard Carter qui a mené à la découverte du tombeau, qui est une des découvertes majeures de l'archéologie. Et de l'autre côté, vraiment l'histoire de Toutankhamon et de la vie quotidienne des Égyptiens il y a 3300 ans.
Ouais, et quand on parle de reproduction à l'identique, hein, parce qu'on pourrait être déçu de se dire « Ah, c'est pas des pièces originales », mais quand même,
ouais,
il faut bien préciser que ça a été exécuté avec une précision maniaque, hein, à la fissure près, à la moisissure près, absolument tout y est, hein.
Exactement, et c'est très important pour Tempora, et on l'a vu dans les expositions qu'on a présentées plus tôt à la Sucrière. Il y a évidemment un côté de vulgarisation pour faciliter l'accès pédagogique à tout le monde, mais tout ça est cautionné et basé sur une guerre scientifique, d'ailleurs sur les conseils scientifiques de Dimitri Labouri, qui est le directeur de recherche du FNRS, qui est l'équivalent du CNRS en France, et de restaurateurs de renom, dont Hugues Tavier. Donc voilà, c'est très important pour nous d'avoir une fondation scientifique solide, tout en proposant un vrai parcours accessible à tous, aussi bien aux passionnés d'Égypte antique qu'aux enfants, à travers des visites guidées, des carnets pédagogiques ou des carnets pour les enfants plus jeunes qui voudraient quand même découvrir l'exposition et les trésors du tombeau de Toutankhamon.
Voilà, c'est donc une expo qui se veut pédagogique. On peut également voir près de 300 pièces archéologiques au total. Quels sont les objets, les quelques objets les plus marquants de l'expo, les pièces à ne pas manquer ?
Alors, c'est une très bonne question. Dans le tombeau, il y a vraiment un amas de pièces toutes plus extraordinaires les unes que les autres. C'est très difficile d'en sortir une du lot. Mais
oui,
ce qui crée la puissance aussi, c'est l'ensemble de ces pièces avec lesquelles Toutankhamon a été enterré. Et en fait, on va vraiment se baser sur ces pièces pour raconter une histoire passionnante et magique afin d'immerger le plus possible le visiteur dans l'Égypte ancienne et dans la découverte du tombeau.
Alors, cette exposition, elle permet aussi de revivre l'histoire de la découverte du tombeau de Toutankhamon.
Oui.
Là, c'était il y a 100 ans. On va donc également s'intéresser au découvreur, hein, l'archéologue britannique Howard Carter, à son travail de fin limier, en quelque sorte, et au matériel qui lui a permis d'exhumer le tombeau.
Exactement, exactement. On va vraiment suivre Howard Carter, on va vraiment comprendre son histoire et, entre guillemets, les parsemé de pas mal d'anecdotes assez intéressantes et l'enquête très fine et longue qui va permettre à Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon de finalement découvrir le tombeau et de dire la célèbre phrase « Que voyez-vous, je vois des merveilles ».
Alors, on parle aussi de la malédiction de Toutankhamon, ce qui, pour le coup, n'est absolument pas une croyance antique. Hein. C'est une légende contemporaine qui est née au début du XXe siècle, au moment précisément de la découverte du tombeau. Alors, pourquoi malédiction, Cédric Moulard ?
Alors, il y a évidemment beaucoup de mythes qui ont entouré la découverte du tombeau. Il y a aussi beaucoup de mythes liés à la vie du jeune Toutankhamon qui ont été montés et démontés au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Il y a évidemment pas mal d'histoires et de malédictions, de décès liés à la découverte. Et l'exposition va justement être une bonne occasion de pouvoir aborder ces mythes et de les démonter de manière rigoureuse et scientifique. Et ça permet aussi d'introduire le fait que dans l'exposition, on aura un escape game où justement il faudra empêcher la malédiction de Toutankhamon de repartir sur le monde. Donc voilà, ça avait fait un énorme buzz, comme on dit maintenant. C'était la toute mania, comme ça s'appelait. Donc voilà, l'exposition va évidemment en parler, mais faire la part belle au démontage des mythes en s'appuyant sur des faits historiques et scientifiques.
Eh bien voilà, nous ne sommes que lundi, mais voilà pour vous, chers auditeurs, une très belle idée de sortie, effectivement, hein, pour le week-end prochain ou les suivants. Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié, magnifique expo, c'est à voir à la Sucrière à Lyon, à partir de jeudi et jusqu'au 24 avril prochain, ce qui vous laisse un peu de temps. Merci Cédric Moulard, vous êtes le concepteur de cette exposition, merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe Matin.
5h50 sur Europe 1, les titres de l'actualité de ce lundi 26 septembre, Alban Le Prince.
Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Giorgia Meloni, à la tête du parti ultra-conservateur Fratelli d'Italia, revendique la victoire des élections législatives qui ont eu lieu hier, selon les premiers sondages à la sortie des urnes. Le mouvement qui comptait 4,3% des voix il y a 4 ans passerait à un quart des suffrages. Conseil des ministres chargé. Aujourd'hui, le gouvernement a rendez-vous à 10h à l'Elysée au menu des discussions. Le financement de la sécurité sociale, le budget 2023 et le projet de loi sur les énergies renouvelables. Dans ce contexte, le gouvernement mise sur une baisse du déficit de la Sécu l'année prochaine pour atteindre 6,8 milliards d'euros. Autre projet, arrêter le remboursement des arrêts de travail prescrits en téléconsultation par des médecins inconnus des patients. Objectif, économiser 100 millions d'euros. Du foot avec cette claque, les Bleus se sont inclinés 2-0 face au Danemark en Ligue des Nations hier soir. Une piqûre de rappel à 2 mois du Mondial, estime Didier Deschamps.
Europe Matin.
5h51, très bon début de semaine avec Europe 1. Allez, un bon café et une belle prescription culture, Ambline.
Oui, avec le conseil série du lundi, on sera avec Héloïse Goua.
Mais d'abord, Nicolas Carreau avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Ambline, bonjour Alexandre.
Et Nicolas, ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Franck Buys.
Oui, Franck Buys, vous savez, né d'aucune femme, grossir le ciel. L'auteur corrézien revient avec L'homme peuplé chez Albin Michel.
Qu'est-ce qui se cache, Nicolas, derrière cette formule, L'homme peuplé ?
Alors, je suis désolé, je vais devoir citer un poète dès le matin, mais c'est un peu ce que disait Walt Whitman. « I contain multitude », je contiens la multitude. Sous-entendu, en chacun de nous vivent différentes facettes, différentes histoires et finalement une foule. C'est un peu l'idée de ce roman qui commence avec l'arrivée d'Harry, un romancier à succès dans un petit hameau au milieu de l'hiver. Sa maison est vétuste, il fait froid, il s'endort en se roulant en boule dans la cuisine à côté d'un vieux radiateur.
Alors, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il fait là ?
En fait, il vient d'acheter cette ferme sur un coup de tête. Il est parti pour retrouver un sens à ce qu'il écrit. Alors il débarque dans cette maison, dans son jus. Mais vraiment, la vieille dame qui vivait là est morte. Le lit est juste défait, comme si elle venait d'en sortir. Les pantoufles sont encore là. C'est un peu glauque comme ambiance. Il en a marre d'écrire ses petits romans sympathiques, bien conventionnels. Il voudrait créer une œuvre, une vraie Franck Buys.
C'est exactement ça, c'est qu'on peut facilement succomber aux sirènes de ce qu'il appelle, lui, la tentation du manufacturier, c'est-à-dire de fabriquer des meubles Ikea, fabriquer des livres avec un début, un milieu, une fin. Et lui, il a mis la barre de la littérature assez haute, mais il a conscience aussi que la littérature ne peut pas se révolutionner. Donc c'est très, très compliqué, en fait. Il sait plus trop où il en est. Il a eu la malchance et la chance en même temps d'avoir un immense succès avec ce premier livre. C'est un peu le problème.
Et donc, si on comprend bien, Nicolas, c'est un roman qui parle de littérature, en fait.
Alors oui, mais pas seulement. Il a un voisin, Harry, Caleb, un type très étrange, moitié sourcier, moitié guérisseur. Quand on le suit, on assiste à des flashbacks avec sa mère qui entretient avec lui une relation pas très saine. Il y a Sophia aussi qui tient l'épicerie et un chien qui s'appelle juste Le Chien. Et des choses inquiétantes surviennent. Tout ça sur fond de neige et de froid. C'est du Franck Buys, je peux pas dire mieux. Un mélange de thriller, de suspense, de réflexion et d'atmosphère. Très important l'atmosphère chez Franck Buys.
Je gomme la végétation, il reste plus que ces deux humains et ce chien. Voilà. En faisant éclater la chronologie technologie également. Et le lecteur attentif s'apercevra que le brouillard est très important. Il fait passer d'une dimension à une autre, de la dimension de Caleb à la dimension de Harry. L'atmosphère, évidemment, est primordiale, oui, primordiale.
À l'air donc avec une écharpe, l'homme peuplé. Franck Bouys, merci beaucoup Nicolas. La prescription série à présent avec Héloïse Goua, bonjour.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Héloïse, alors vous avez sélectionné ce matin pour nous une série réalisée par l'une des humoristes préférées des Français.
Oui, une série très attendue parce qu'il s'agit de la première écrite et réalisée par Florence Foresti. Ça s'appelle Désordre au pluriel. Et ces désordres sont à l'image de la vie pas toujours rose de Florence Foresti qu'elle met en scène. C'est bien sûr elle qui tient le rôle principal pour nous parler de l'approche de la cinquantaine, du célibat, de la célébrité ou de ses angoisses quotidiennes. Alors sans surprise, tout ça est raconté de manière très drôle et avec beaucoup d'autodérision, notamment quand il s'agit d'évoquer la concurrence qui existe entre les actrices, entre les humoristes, femmes. Dans cet extrait, Audrey Lamy remet un prix d'honneur à Florence Foresti pour l'ensemble de sa carrière.
Depuis 20 ans d'une carrière sans nuages, elle a tenu son cap, sans céder aux nouvelles modes. Elle a gardé ses thèmes phares, toujours les mêmes. Ce soir, je voudrais que... on lui dise merci, on t'oubliera jamais.
Oui, ça ressemble un peu plus à un hommage à une personne décédée. Alors pour ceux qui suivent déjà Florence Foresti sur les réseaux sociaux, vous reconnaîtrez aussi son chien Bernie, un gros bulldog français qui prend la parole dès qu'il en a l'occasion.
Eh hey Bernie, on peut dire qu'elle est sympa au moment. Hein.
Elle est sympa, mais jamais tu ne posséderas cette femme. Je suis la seule perruque de cette baraque et je compte bien rester mon petit pote.
Bon, enfin... Bernie Pascal n'a aucune intention de me posséder. Il monte un meuble là, quel rapport?
Alors, c'est pas la première humoriste qui met sa vie en scène dans une série. L'année dernière, Blanche Gardin avait réalisé La meilleure version de moi-même. C'était une série dans laquelle elle montrait son quotidien dans un vrai faux documentaire hilarant.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette série, Héloïse ?
Eh bien, cette série est drôle, mais pas que. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai même lâché une petite larme vers la fin. Parce que Florence Foresti n'hésite pas à prendre à bras-le-corps des sujets graves, comme ses tendances dépressives qui lui gâchent la vie. Et cette dépression, ses angoisses, sont très joliment représentées par un homme qui l'accompagne presque tous les jours pour lui ôter le peu de confiance en elle qu'il lui reste. Alors là, la citation « L'humour et la politesse du désespoir » de Chris Marker prend tout son sens dans cette série originale et surprenante qui vous réserve beaucoup de surprises.
Alors oui, quand peut-on voir cette série ?
La série sera diffusée lundi prochain, le 3 octobre, sur Canal+, à 21h. C'est 8 épisodes de 30 minutes et le tout sera aussi disponible sur MyCanal.
C'est noté, merci beaucoup Héloïse Goua. Excellente matinée, l'écoute d'Europe 1. Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez à peine, nous sommes le lundi 26 septembre. Votre interview, Alexandre, à 6h40.
On sera avec le directeur du Cercle de l'Épargne, Philippe Crevel. Les rivières font les grands fleuves, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Si on arrive à mettre un peu d'argent de côté, les Français en mettent beaucoup en ce moment de l'argent de côté. La collecte du livret A atteint des niveaux records. Alors c'est vrai que son taux est plus attractif, mais c'est aussi l'hiver d'incertitude qui approche. On parle de vos économies à 6h40.
Au programme également le retour du pressing, les trois articles à lire dans la presse ce matin.
Et puis votre partition, Ombline.
C'est un duo qui a marqué les années 90. Voilà, c'est un duo anglais au nom improbable. Everything But The Girl, ce succès planétaire de Missing, dans sa version remixée, sera synonyme de nouveau départ. L'histoire de Tracy Thorn et de Ben Watts dans 20 minutes.
Le journal de 6h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Premier mot, première promesse de Giorgia Meloni, la leader d'extrême droite, revendique une victoire historique dans le pays. Le reportage de notre envoyé spécial dans un instant. Le budget 2023 présenté ce matin en Conseil des ministres. Face à l'inflation, le gouvernement fait le choix des dépenses. Une mesure concerne votre feuille d'impôt. Explication à suivre. Et puis l'équipe de France qui n'a pas rassuré ses supporters. Hier soir face au Danemark, les Bleus se sont inclinés 2-0 à Copenhague, à moins de 2 mois seulement du mondial.
Europe.
Europe 1.
Le journal de 6 heures présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est ce qui s'appelle une ascension fulgurante. En Italie, Fratelli d'Italia arrive en tête des élections législatives. Le parti d'extrême droite récolte près d'un quart des voix selon les résultats provisoires. Un score multiplié par 6 depuis 2018. Giorgia Meloni, tête d'affiche, revendique donc le prochain gouvernement. La coalition des droites décroche au total près de 44% des voix. De quoi s'assurer la majorité absolue des sièges au Parlement. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Comment ont réagi les habitants à l'annonce de ces premiers chiffres ?
Alors soyons honnêtes, la majorité des Italiens découvrent les résultats en se réveillant ce matin. Beaucoup sont allés dormir avant même que soient connues les premières estimations fiables tombées au milieu de la nuit. Sonia, elle, était aux côtés de Giorgia Meloni.
C'est un moment heureux, vraiment très heureux. L'Italie a enfin retrouvé une colonne vertébrale.
Ce retraité aurait préféré un autre résultat, mais s'incline.
En démocratie, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagne. Mais personnellement, je suis de gauche. Mais si c'est une force de droite qui gagne, il n'y aurait rien de mal. C'est la démocratie. Je suis absolument tranquille.
Mais beaucoup d'Italiens n'oublient pas les racines du parti Fratelli d'Italia.
Je dirais que oui, la préoccupation existe au moins pour une partie de la population. On peut associer la Meloni à une certaine droite, donc au fascisme. On espère qu'elle maintienne un certain européisme, qu'on ne tente pas vers ces pays qui sont contre l'Europe, ou du moins qui menacent une situation de paix européenne.
En ligne de mire, les relations qu'entretient Giorgia Meloni avec les dirigeants de la Pologne et de la Hongrie.
Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Les résultats définitifs devraient être publiés dans la journée. Il faudra attendre plusieurs semaines en revanche pour connaître la composition du nouveau gouvernement. Une équipe qui devra composer avec une inflation galopante et une dette qui frise les 150% du PIB.
Mais l'Italie n'est pas la seule dans cette situation. En France aussi, les autorités peinent à maîtriser la dette.
Oui, cela ne devrait pas s'arranger avec le budget 2023. Le projet de loi de finances est présenté justement à 10h en Conseil des ministres. Les dépenses publiques resteront fortes pour faire face à la hausse des prix. D'ailleurs, parmi les mesures attendues, il y a l'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Barthélémy Philippe, 39 millions de foyers sont concernés. Mais qu'est-ce que ça va changer exactement ?
Eh bien, avec cette mesure qui va coûter un peu plus de 6 milliards d'euros au compte public, le gouvernement cherche à éviter que les Français payent plus d'impôts à cause de l'inflation. En 2022, la hausse des prix a entraîné un mouvement général d'augmentation des salaires. Avec le maintien du barème actuel, de nombreux foyers concernés auraient pu basculer dans l'impôt, voire passer dans la tranche supérieure en 2023. Par exemple, un célibataire au SMIC serait devenu imposable à hauteur d'environ 130 euros. Pour éviter ces mauvaises surprises, le gouvernement a décidé d'augmenter d'un peu plus de 5% les seuils d'entrée des 5 tranches du barème de l'impôt, ce qui correspond au niveau moyen de l'inflation sur l'année 2022. Ainsi, le revenu annuel minimum pris en compte pour faire partie des 45% de foyers français imposables va être relevé d'un peu plus de 500 euros. Rassurez-vous, si votre salaire n'a pas augmenté en 2022, vous serez aussi gagnant, puisque vous allez mécaniquement payer moins d'impôts l'année prochaine. Selon Gabriel Attal, un célibataire qui touche 2500 euros par mois verra sa contribution diminuer d'un peu plus de 300 euros.
Barthélémy Philippe a noté que le budget va aussi acter la suppression totale de la taxe d'habitation pour les 20% de Français qui la paient encore.
Au programme du Conseil des ministres, il y a aussi le projet de loi sur les énergies renouvelables.
Oui, un déploiement qu'Emmanuel Macron veut accélérer en allant, je cite, deux fois plus vite. Tempo valable aussi pour le nucléaire, une priorité face à la crise de l'énergie bien sûr, et aux besoins des Français qui optent de plus en plus pour la voiture électrique.
Oui, la preuve avec la multiplication des bornes de recharge, le rythme inédit des levées de fonds. 16 millions de voitures électriques pourraient rouler en France d'ici 2030. Les investisseurs l'ont compris, c'est maintenant que tout se joue, Aurélien Fleureau.
Après avoir investi sur la fibre ou l'éolien ces dernières années, les fonds d'infrastructure misent désormais sur les bornes de recharge. Electra a par exemple levé 160 millions d'euros, ce qui permet évidemment de gagner du temps, explique Aurélien Demeaux, le cofondateur du spécialiste de la charge rapide.
Il y a la nécessité d'avoir un raccordement avec Enedis, il y a la nécessité de contractualiser les terrains. Voilà, donc l'objectif c'est d'aller presque aussi vite que la mise sur le marché des millions de voitures électriques qui vont arriver là ces prochaines années.
Un marché qui représentera plusieurs dizaines de milliards d'euros au niveau européen pour garantir un réseau fiable. C'est aussi pour cela qu'il faut mettre le paquet dès maintenant.
Il y a besoin de mailler le territoire un peu partout avec des bornes de recharge qui soient rapides pour vraiment rassurer l'utilisateur. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% des sessions de recharge qui échouent. Donc c'est un énorme enjeu.
Un énorme enjeu également pour The Plug qui vient de lever 240 millions d'euros, tout comme Bump, Allego ou PowerDot. Toutes ces jeunes entreprises prêtes à grandir très vite sur un marché français où 70 000 bornes sont installées pour environ 600 000 voitures 100% électriques en circulation.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. 6h05, la conductrice du bus de Mias, toujours en soins intensifs. Sa présence est compromise pour la reprise du procès prévu aujourd'hui.
Elle l'a prévenue effectivement, elle est toujours hospitalisée depuis jeudi à Marseille. Elle a même été transférée en soins intensifs ce week-end.
Oui, une admission à cause d'un infarctus. Pendant son interrogatoire la semaine dernière, après une crise de larmes, les pompiers l'ont évacuée du tribunal. Selon son avocat, la conductrice souffrirait du syndrome du cœur brisé. Mais alors, de quoi parle-t-on ? L'éclairage du docteur Marc Vilasek, président du syndicat national des cardiologues.
On n'a pas vraiment d'explication. Donc, les seuls points qu'on peut garder, c'est femme ménopausée et stress assez important comme une dispute avec son conjoint ou un problème dans son boulot. Une fois qu'on est hospitalisé, le risque de mort subite est diminué puisque la prise en charge est immédiate. Le muscle du cœur va récupérer assez rapidement. Néanmoins, la personne, elle, va nécessiter du repos pour totalement récupérer de l'accident. Généralement, c'est au moins 15 jours à un mois d'arrêt de travail. Et surtout, comme quand quelqu'un fume, eh bien, il faut arrêter le tabac s'il a fait un infarctus. Là, si le stress a déclenché l'épisode, ben, voir comment mieux gérer ces potentiels facteurs déclenchants.
Le docteur Marc Vilasek, président du syndicat national des cardiologues, il répondait aux questions de Louise Douillet pour Europe 1.
Il est 6h06, le top 14 du rugby avec la première défaite du champion d'Europe.
Et oui, La Rochelle s'est inclinée 13-22 face à Clermont-Ferrand, quatrième journée de la compétition, où le stade Rochelet tombe donc à la troisième place du classement. Toulouse prend la tête.
Et en basket, les Bleus ont rendez-vous ce matin avec le Japon.
Et oui, à 8h pour une place en quart de finale de Coupe du Monde, excusez du peu. Les Françaises devront tout de même convaincre après une lourde défaite contre le Canada ce week-end. Elles ont redressé la tête en écrasant le Mali hier, victoire 74-59 face au plus faible adversaire de leur poule.
Et enfin pour eux, le mondial commence dans 58 jours et il y a quand même de quoi être inquiet.
Oui, on peut le dire, c'est du football. L'équipe de France a sombré hier soir face au Danemark. Défaite 2-0 à Copenhague, 2 buts encaissés en à peine 5 minutes. C'était la dernière répétition avant la Coupe du Monde au Qatar. Une fausse note, Cyril, on peut le dire.
Oui, Didier Deschamps doit se poser des questions car après une victoire probante contre l'Autriche jeudi dernier, les Bleus sont retombés dans leur travers. Mis à part 20 bonnes premières minutes, les Français n'ont pas existé. Lloris, Pogba, Benzema n'étaient pas là. Et bien le manque d'expérience s'est ressenti sur le terrain. Même Kylian Mbappé, la superstar de l'équipe de France, d'habitude irréprochable, a manqué ses tentatives. Or au Qatar, les Français, qui retrouveront notamment les Danois dans leur groupe, devront faire beaucoup mieux, confirme le sélectionneur Didier Deschamps.
On connaît encore eu une piqûre de rappel aujourd'hui par rapport à ce qui nous va nous attendre dans 2 mois. À partir du moment où on en met moins, c'est compliqué pour tout le monde. Le très haut niveau demande des exigences maximales. Quand c'est sur un tournoi final comme une Coupe du Monde, encore plus.
Malgré ce revers, les Bleus restent dans l'élite de la Ligue des Nations après la défaite de l'Autriche. Un moindre mal, admet le sélectionneur, qui pense déjà au mois de novembre. Didier Deschamps annoncera alors sa liste de joueurs. Le patron des Bleus espère s'appuyer sur ses cadres au Qatar. Premier match prévu le 22 novembre prochain contre l'Australie.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
6h10, très bon réveil à tous sur Europe 1. C'est le pressing qui vous ouvre ses portes.
Oui, comme tout bon lundi, quels articles ont retenu notre attention ? Eh bien, pour décortiquer la presse, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Et on commence avec vous, Dimitri.
Eh bien, j'ai sélectionné un article du Figaro. Omblin, Alexandre, ce matin, on plonge dans une salle d'opération.
Ah, sympa.
On s'y croirait presque.
On aime bien commencer la semaine avec des bips.
Alors, vous le savez, opération rime avec anesthésie, qu'elle soit générale ou locale. Et pour cette dernière, eh bien, il existe de nombreuses techniques pour détendre le patient qui n'est pas complètement endormi. Une des méthodes les plus répandues est l'hypnose, mais ce n'est pas la seule à en croire cet article. Je vous lis son titre, « Quand la réalité virtuelle aide à combattre la douleur ». Car oui, depuis quelques mois maintenant, la réalité virtuelle est utilisée en complément de l'anesthésie locale. Alors pour vous expliquer, en fait, pendant l'opération, le patient enfile un casque couvrant les yeux et les oreilles, le plongeant alors dans un décor en trois dimensions, guidé par une petite voix cherchant à attirer son attention.
Comme dans un jeu vidéo, en fait.
Mais c'est exactement la technique. La voix va chercher à attirer l'attention du patient sur certains éléments, par exemple un élément visuel comme des feuilles, ou même la voix avec des exercices de respiration. Eh bien, figurez-vous que c'est une technique qui marche et qui permet tout d'abord de ralentir les signaux de douleur, et c'est tellement efficace que cela permet même de réduire les doses de sédatifs administrées pendant les interventions. C'est donc une nouvelle alternative intéressante, surtout pour les patients qui souhaitent éviter l'anesthésie générale et certaines complications qui peuvent arriver. Alors, il y a quand même quelques bémols. De un, c'est une pratique émergente, donc beaucoup de professionnels ne sont pas formés pour utiliser cette réalité virtuelle. Exactement. Et de deux, son déploiement est très limité aussi parce que cela coûte cher et que beaucoup de médecins s'en plaignent parce que c'est un coût malgré tout. Alors oui, c'est une belle avancée pour la médecine, mais qui doit être encore travaillée quand la réalité virtuelle aide à combattre la douleur, c'est-à-dire dans les colonnes du Figaro.
Bon, et l'histoire ne dit pas si on se réveille de l'anesthésie complètement accro aux jeux vidéo.
Alors ça non, ça ne nous le dit pas. Mais c'est une bonne expérience et une belle innovation. Je
une nouvelle piste et à tenter, effectivement.
Moins de sédatifs, du coup on sort plus vite de l'hôpital, on libère des lits. Donc tout ça, c'est une réaction en chaîne.
Omblin, votre sélection ce matin.
Ah ben, une petite annonce à vendre. Voilà, le pressing pour relayer une petite annonce immobilière toute simple. Hein. Vous allez la retrouver ce matin dans Le Parisien. À vendre donc à Champeau, près de Melun, en Seine-et-Marne, un bien qui combine charme de l'ancien, touche de modernité, calme, verdure, à moins d'une heure de Paris, dépaysement garanti. 800 mètres carrés habitables, une petite bicoque. 800 mètres carrés habitables, je répète deux fois, c'est important. 20 pièces, entourées d'un parc avec ses allées aux arbres centenaires et une forêt de 52 hectares pour se balader le dimanche. Alors oui, vous allez pouvoir vous offrir un château, vous l'avez, oui, c'est pas juste une petite maison.
Et le problème, c'est qu'il faut le chauffer après. Hein.
Oui. Alors, on va rêver un peu ce matin, si vous le permettez, Alexandre, on parlera chauffage et tarifs ensuite. Tarifs surtout.
Allons-y, rêvons.
Le château d'Aunois est donc à vendre, c'est ce château qu'on voit dans le film Le Retour du Héros avec Jean Dujardin,
oui.
Si vous l'avez vu, qui est formidable d'ailleurs. Et dans le film aussi, que la fête commence avec Jean Rochefort et Philippe Noiret, c'est un vrai décor de cinéma. Un château entièrement rebâti en pierre en 1750 après avoir été victime d'un incendie. Alors, excepté l'ajout des salles de bain, rien n'a été changé depuis deux siècles et demi. Le salon est la plus grande pièce qui bénéficie d'une triple exposition sur le parc, l'entrée, la terrasse, son plafond est peint. Il est à 5 mètres de hauteur. Et un plafond peint dans un château, ben c'est pas banal. En plus, il y a une petite différence par rapport aux autres châteaux de France. J'ai pas dit que ça allait être simple pour la poussière. Hein. Voilà, 5
pensais.
Mètres de hauteur, il faut y aller quand
j'y
même.
Pensais.
Il faut sortir l'échafaudage. Avant d'appeler votre conseiller à la banque, pour ce charmant pied-à-terre à la campagne, l'actuel propriétaire en demande 14 800 000 euros. Bon. Oui, c'est des euros, c'est pas des pesetas. Hein. 14 800 000 euros. Je vois votre air intéressé, Alexandre, Dimitri aussi. Hein, vous allez vous battre. Les charges.
On va se cotiser déjà. Oui.
Les charges.
Quelques siècles d'existence.
Voilà, c'est ça. Par an, les charges, à votre avis. Ouais, c'est cher. Hein. 100 000.
Le prix d'un. Oui.
Voilà, 100 000 euros par an.
Le prix d'un joli petit studio déjà. Ah, oui. Juste en frais de charges.
Voilà, pour le personnel, l'entretien du jardin, pour le chauffage, puisque ça vous intéressait, c'est important. 12 000 euros par an pour la taxe foncière, mais le château peut rapporter de l'argent puisque vous pouvez y organiser des mariages et il faut compter à peu près 6500 euros le week-end. Donc vous pourrez rentrer dans vos frais. Hein.
Bon.
Si vous louez des chambres, il y a 4 000 euros.
Il faut quand même avancer 14 millions 800 000 euros.
14 millions, voilà, on va tous se cotiser. Château et parc à vendre, c'est dans Le Parisien.
Un morceau de rêve et puis un retour brutal à la réalité. Merci Omblin.
Alexandre, je vous donne la parole.
Moi, je vais vous parler ce matin d'un des plus beaux couteaux à avoir sur soi ou dans son sac de rando, peut-être. L'un des plus beaux et logiquement l'un des plus copiés, le Laïol. Vous savez, celui qu'on plie dans sa poche et qu'on déplie en général à l'heure du pique-nique. Je rappelle que le vrai Laïol est fabriqué dans l'Aveyron. C'est un vrai Laïol, c'est donc un investissement. On débourse en général pas loin de 100 euros pour les moins chers. mais évidemment, vous gardez pour la vie. Or, jusqu'ici, le vrai couteau Laguiole, il était noyé dans un torrent d'imitations à bas prix.
Eh oui, oui.
En général, made in China, ce qui était jusqu'ici parfaitement légal. Hein. Le problème chronique du Laguiole, c'est que le nom, justement, n'était pas protégé.
Ah, oui.
Mais ça, c'était avant. Une bonne nouvelle à lire ce matin dans les Échos, et une victoire d'ailleurs pour le Laguiole authentique, il vient de décrocher son indication géographique. Alors, c'est quoi la conséquence ? Eh bien, c'est que les imitations vont devenir automatiquement des contrefaçons.
Oui.
Elles seront interdites. Victoire, oui, mais victoire au goût amer, pourtant, du côté du village de Laguiole, 1200 habitants au cœur de l'Aubrac, dans l'Aveyron. Là-bas, il y a des dents qui grincent, parce que l'indication géographique, elle ne s'y limite pas à l'Aveyron. Et oui, les grands rivaux des couteliers aveyronnais, et qui ont obtenu gain de cause dans cette affaire, eh bien, ce sont les couteliers de Thiers,
d'accord,
dans le Puy-de-Dôme. Eux aussi sont autorisés à produire des Laguioles authentiques. D'ailleurs, je rappelle que de ce côté-là du Massif central, en principe, on ne dit pas Laguiole, mais
Laguiole.
Laguiole.
Mais oui.
Petit point histoire, le couteau est bel et bien né dans le village de Laguiole il y a 150 ans, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que très vite, dans l'histoire, les coutelleries de Thiers en ont fabriqué aussi à leur tour. Alors chacun va choisir son camp, on est toujours libre d'aller
continue,
à Laguiole pour s'acheter un Laguiole. Je l'ai fait il y a quelques années, je le referai demain sans hésiter. Mais il semble aujourd'hui quand même, avec cette victoire, qu'il n'y ait qu'un seul camp, celui du Made in France, finir les imitations à bas prix.
Ah oui.
Le Laguiole, premier couteau français à l'exportation. Hein.
Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ouais,
c'est le couteau français le plus exporté dans le monde.
D'accord. Donc on peut s'acheter un Laguiole de Laguiole ou un Laguiole de Thiers.
Voilà. Mais dans tous les cas, de bonne qualité, Made in France.
Made in France, c'est
l'essentiel. Chacun fait son choix.
Merci beaucoup, Alexandre. C'était le pressing. Dans un instant, la partition.
6h20, très bon réveil avec Europe Matin. Votre partition, Omblin, avec un duo anglais qui a marqué les années 90, Everything But The Girl.
L'année 1994, précisément, Alexandre en pleine révolution de la musique électronique, et ce, grâce à l'intervention de la légende de la house new-yorkaise, le DJ Todd Terry. Il a offert à Everything But The Girl une aura internationale.
On connaît tous évidemment cette version de Missing. Elle marque l'arrivée en force d'Everything But The Girl sur la scène mondiale. Et pourtant, pourtant la carrière du groupe, elle a commencé bien plus tôt. Hein.
Absolument, au début des années 80, il est né ce duo de la rencontre entre la chanteuse Tracey Thorn et du guitariste et pianiste Ben Watt. L'Angleterre se remet alors doucement de l'onde de choc punk. Elle est membre des Marine Girls, un groupe de filles qui fait le trait d'union entre punk et pop. Lui est un musicien doué qui joue et écrit pour d'autres. C'est sur les bancs de la fac de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre, qu'ils se rencontrent. Ils sont étudiants en lettres. Tous les deux font partie du même label Cherry Red. Ils ont 19 ans et ils tombent amoureux, pas seulement artistiquement. Night and day, you are the
one. Only you beneath the moon and under the sun. Tracey Thorn et Ben Watt ont les mêmes goûts musicaux, en particulier ils partagent un certain penchant pour le jazz.
Oui, ils n'ont surtout aucune envie de suivre les exigences du marché, et à force d'être à contre-courant, le duo va conserver toujours cette longueur d'avance sur son temps. Leur premier titre en 1982, vous l'entendez, est une relecture bossa nova du classique Night and Day de Cole Porter. Ils patientent 2 ans avant de sortir le disque Eden avec ses orchestrations façon soft jazz américain.
Et vous allez nous dire maintenant, Omblin, comment ils ont choisi ce nom de groupe improbable, Everything But The Girl.
C'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. C'est en fait le slogan d'un magasin de literie dans la ville de Hull. For your bedroom needs, we sell. Nous vendons tout pour la chambre. Everything But The Girl, tout sauf la fille. Sous-entendu, vous pouvez tout emporter sauf la fille de la maison.
Magnifique ce titre d'Everything But The Girl, qui sort donc plusieurs albums tout au long des années 80 et qui profite d'une belle notoriété locale, en tout cas en Angleterre.
Oui, l'ascension du groupe est alors brutalement interrompue 10 ans après ses débuts, lorsque Ben Watt tombe gravement malade, victime du syndrome de Schock-Strauss. C'est une maladie rare, souvent mortelle, qui affecte le système immunitaire. Le musicien en réchappe et Everything But The Girl repart à zéro. Une renaissance et un changement de cap. Tracey Thorn est invité à chanter sur un disque des inventeurs anglais du trip-hop Massive Attack. C'est cette voie que le duo décide de suivre. L'album Amplified Heart en 1994 fait corps avec la dance music.
Always were two steps ahead of everyone.
Ça, c'est la version originale que vous entendez, celle de 1994. Le groupe Everything But The Girl, c'est-à-dire la chanteuse Tracy Thorn et le musicien Ben Watt, toujours en couple, hein, même si le duo n'existe plus. Ils ont 3 enfants d'ailleurs. Tracy Thorn fête aujourd'hui ses 60 ans.
Merci Ombline, allez, très belle playlist. Merci à vous hein, pour ce réveil en douceur ce lundi matin, 6h25. À suivre l'interview écho. On va parler de votre épargne dès que les Français le peuvent. Et oui, ils mettent de l'argent de côté, comme en témoignent les chiffres record de la collecte du livret A. On parle de vos économies à 6h40 avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. Et si demain on communiquait entre nous à l'aide d'hologrammes. À tout de suite.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani. Lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo.
Nous gouvernerons pour tous les Italiens. L'Italie à droite toute à l'issue des législatives et l'engagement cette nuit de Giorgia Meloni, la patronne de la coalition de droite ultra-conservatrice, coalition créditée de 43% des suffrages. Les premiers mots de Giorgia Meloni dans un instant avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Frédéric Michel. Projet de loi de finances en Conseil des ministres ce matin et cette question, faudra-t-il passer en force sur la réforme des retraites? Emmanuel Macron veut aller vite face à la levée de bouclier des oppositions. L'épouvantail du 49-3 est agité par plusieurs membres de la majorité. Et puis à quoi va ressembler le prochain James Bond? Sera-t-il au service du roi Charles III, comme il l'a été avec Elisabeth II? Élément de réponse à suivre. Le journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Elle promet donc de gouverner pour tous les Italiens. Giorgia Meloni remporte les élections législatives à Rome. Selon les résultats partiels, sa coalition de centre-droit est créditée de 43% des suffrages. Un séisme politique, un terremoto comme diraient les Italiens. D'abord parce que Fratelli d'Italia, son parti post-fasciste ultra-conservateur, sort pour la première fois de l'opposition. Et c'est aussi la première fois que l'Italie sera dirigée par une femme. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Italie. Vous étiez cette nuit dans le grand hôtel où Giorgia Meloni a pris la, parole.
Et il était 2h30 du matin quand Giorgia Meloni est montée sur scène, sobrement accueillie par les applaudissements de son équipe et de plusieurs fidèles. Mais sans l'ambiance que l'on peut connaître en France, l'usage ici, ce n'est pas de faire de grandes fêtes avec les militants. Émue, Giorgia Meloni, après avoir été la plus jeune députée, la plus jeune ministre, revendique aujourd'hui la tête du gouvernement. Elle devrait être la première femme à diriger l'Italie.
La situation dans laquelle verse l'Italie, dans laquelle verse l'Union européenne, la situation que l'on doit affronter est particulièrement complexe. Elle demande la contribution de tous, un climat serein, un respect mutuel à la base du débat dans n'importe quel système démocratique.
Ancien démocrate chrétien Guido Crosetto a fondé Fratelli d'Italia. Il est l'un des mentors de Giorgia Meloni.
Elle parle français,
elle connaît beaucoup la France et elle la respecte. C'est une femme déterminée, une femme très travailleuse, très sérieuse, qui tient sa parole. Et donc dans un rapport correct entre nations, elle sera un grand interlocuteur et une grande aide pour toute l'Europe.
Mais Giorgia Meloni a aussi martelé que l'Italie passerait d'abord, prévenant l'Union européenne que la fête était terminée.
Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Ce matin, les réactions françaises à la victoire de Giorgia Meloni se multiplient. Une leçon d'humilité à l'Europe pour Jordan Bardella. Éric Zemmour y voit la preuve qu'arriver au pouvoir est possible. À gauche, la députée Manon Aubry dénonce un poison réactionnaire doctrinaire xénophobe et autoritaire dont la poussée se confirme partout en Europe.
Europe 1, 6h33. C'est un jour important pour nos impôts et pour notre santé. Le premier budget du quinquennat et le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont présentés aujourd'hui en Conseil des ministres.
Oui, rendez-vous à 10h à l'Élysée. Dernière ligne droite avant que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent d'ores et déjà houleux et il y a une question qui agite l'opposition, celle de la réforme des retraites. L'exécutif a envisagé de la faire passer par amendement, évoquant même la possibilité d'un recours au 49-3. Bon, soyons clairs, Arthur de l'aborde pour le moment, cette réforme ne figure pas dans le projet de loi.
Oui, la première mouture du budget de la sécurité sociale présentée ce matin ne devrait pas intégrer la réforme des retraites. Cependant, la piste d'un futur amendement n'est pas abandonnée. L'option reste sur la table, tout comme celle d'un texte spécifique en début d'année prochaine. Autrement dit, la question de la méthode n'a pas encore été tranchée. Pour savoir quelle formule sera retenue, il faudra donc patienter au moins jusqu'à mercredi. Un dîner consacré à la réforme des retraites est prévu autour du président, de la première ministre, de membres du gouvernement et de plusieurs poids lourd de la Macronie, dont François Bayrou. Objectif, ramener le calme dans la majorité alors que le patron du Modem a répété tout le week-end son opposition à un passage en force via un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Des prises de position dont Emmanuel Macron doit tenir compte, même s'il est déterminé à aller vite, confie un ministre. Et s'il n'a pas encore tranché sur la forme, le chef de l'État a déjà décidé sur le fond. La réforme des retraites doit être mise en œuvre à l'été 2023, martèle son entourage.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Notez que le projet de budget de la sécurité sociale prévoit davantage de soutien aux familles monoparentales avec un investissement prévu de 500 millions d'euros. La réduction également de la différence de reste à charge entre les parents qui font garder leurs enfants à la crèche et ceux qui les font garder par une assistante maternelle.
Ils ont finalement mis leur menace à exécution. Les pirates informatiques qui avaient hacké l'hôpital de Corbeil-Essonnes ont diffusé une partie des données volées.
Et celle des patients, celle aussi du personnel du centre hospitalier sud-francilien. L'établissement, on s'en souvient, avait refusé de leur payer 10 millions de dollars de rançon. C'était la consigne du gouvernement. Ce week-end, les hackers ont donc rendu public plus de 11 gigaoctets de contenu sensible, William Molinier.
Oui, c'est une façon pour les hackers de mettre la pression sur l'hôpital. Diffuser une partie des données volées leur permet de montrer qu'ils sont capables de le faire. Les pirates misent sur le fait que la victime finisse par craquer et paye au moins une partie de la rançon. Rançon qui d'ailleurs à l'origine était à 10 millions de dollars. Elle a été ramenée à 2 millions, le premier pour détruire les données volées, l'autre moitié en échange d'une clé de déchiffrement pour que l'hôpital ait à nouveau accès à son système d'exploitation. Cette prise d'otage de données numériques sur un établissement de santé est assez inédite, au moins par la longueur de sa phase de négociation, puisqu'elle dure depuis le 21 août dernier. Selon nos informations, des négociateurs du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, ont été associés à l'enquête. À ce jour, les gendarmes ont identifié la signature de l'attaque informatique, tout comme les hackers, des maîtres chanteurs du groupe de rançonneurs Logbit 3.0. Ce groupe criminel russophone revendique une centaine de pirates dans le monde entier. Ils auraient, depuis le 1er septembre dernier, attaqué près de 150 entreprises sur Internet.
William Molinier.
6h36, elle était la reine de James Bond. Elisabeth II n'est plus. Le prochain 007 sera donc au service de Charles III.
C'est la seule chose dont on est sûr pour le moment. Les producteurs l'ont annoncé ce week-end. Pour le reste, le prochain James Bond est un grand mystère. Alors que 007 fête ses 60 ans cette année, on ne sait pas du tout ce que nous réserve le futur épisode, Marie Jiquel.
Une nouvelle mission se prépare sans Daniel Craig, acteur le plus endurant dans le costume de James Bond pendant 16 ans, et sans la reine d'Angleterre.
Il y a pas mal de références dans les films qui renvoient un petit peu à la reine, même si on ne la voit jamais.
Laurent Perriot, spécialiste de James Bond.
Les avant-premières des James Bond sont devenues des premières royales, où très souvent la reine se rendait en personne lors de la première du film.
On connaît le successeur d'Elisabeth II, mais qui pour incarner l'agent 007, personnage très rentable? Le dernier opus a engrangé 700 millions de dollars de recettes.
Il y a plusieurs noms qui sont balancés par les tabloïds anglais. Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hiddleston, Jamie Dornan.
Enfin, concernant l'intrigue, les bouleversements de notre monde, comme la guerre en Ukraine, seront-ils de la partie?
Les James Bond ont souvent collé à la géopolitique où l'on parfois anticipait. Par exemple, à l'époque du monde ne suffit pas en 99. C'est une histoire de contrôle aussi des puits de pétrole et de gaz qui viennent d'Azerbaïdjan, vous voyez.
60 ans après Sean Connery et son ennemi, le Dr No, renaître peut bien attendre pour l'éternel agent secret.
Ah, on l'aime cette musique, Marie Jiquel. On l'aime et on a hâte.
suite.
Et on attend le prochain, bah effectivement. Oui. Merci Fanny Marceau. 6h38, entre la cigale et la fourmi, vous avez choisi. L'épargne des Français atteint un niveau record. Alors est-ce la crainte des mois qui viennent? Est-ce que c'est lié aussi à des taux bien sûr plus séduisants? Dans un instant, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Malgré l'inflation, les Français continuent d'épargner. Le livret A a enregistré une collecte record au mois d'août, 3 fois plus que l'an dernier. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
Bonjour Philippe Crevel.
Bonjour.
Plus de 5 milliards d'euros de collecte nette au mois d'août. Si l'on additionne le livret A et le LDD, le livret de développement durable, c'est un record depuis 2009. Comment vous expliquez ce chiffre? C'est sans doute lié d'abord à la hausse effectivement du taux de rémunération du livret A?
Il y a indéniablement un effet taux et il y a aussi un effet angoisse. L'effet taux, oui, c'est le passage du taux du livret A à partir du 1er août de 1 à 2%. Dans un contexte certes d'inflation, mais ce taux de 2%, comme d'ailleurs à chaque relèvement, attire les épargnants. On a toujours une collecte forte au moment du relèvement du taux du livret A et cela perdure 2 à 3 mois en fonction des circonstances. Mmh. Et puis, il y a un effet angoisse, c'est l'inflation, c'est la peur de ne pas avoir suffisamment de moyens pour payer les dépenses de demain ou d'après-demain.
Oui, alors, il y a effectivement cette volonté de se préparer un matelas pour les prochains mois. Pourtant, Philippe Crevel, le taux du livret A, il reste loin malgré tout de compenser l'inflation telle qu'elle est à son niveau actuel.
Oui, parce que sur l'ensemble de l'année, l'inflation devrait être autour de 6% et le taux du livret A, en prenant le fait que sur le premier semestre, il était donc à 1, voire en dessous, 0,5% jusqu'au 1er février, on est très très loin de ces 6%. On a un rendement réel, ça veut dire en prenant en compte l'inflation, qui est négatif d'environ 4 points. Il faut revenir aux années 80, au début des années 80, pour trouver un tel rendement réel négatif. Mais les Français aujourd'hui considèrent qu'il n'y a pas d'autres placements plus attrayants, plus attractifs, et donc c'est pour ça qu'ils optent pour le livret A et qu'ils placent des sommes importantes, comme vous l'avez dit, 5 milliards, et depuis le début de l'année, on est à plus de 23 milliards d'euros sur le seul livret A.
Ouais, c'est considérable. Oh, c'est toujours mieux, effectivement, d'avoir de l'argent sur un livret A que de le laisser dormir sur son compte courant. C'est pas le placement le plus rémunérateur, c'est un placement sécurisé, en revanche, Philippe Crevel, zéro prise de risque.
Le livret A, il a 3 avantages majeurs. C'est qu'il bénéficie d'une sécurité, il y a zéro risque, on met 100 euros, on les récupère quoi qu'il arrive. Il y a une liquidité, je peux mettre le matin et repartir l'après-midi avec l'argent que j'ai mis dessus, oui. C'est pas conseillé mais on peut le faire. Et puis il y a zéro fiscalité, zéro prélèvement obligatoire. Et ça en France, on adore. Et puis je reviendrai sur l'histoire du rendement, 2% aujourd'hui. C'est pas mal. Certes, c'est en rendement réel négatif, mais il n'y a pas beaucoup d'autres produits qui procurent, qui génèrent 2% net de charge, on va dire, sauf donc à mettre sur le livret d'épargne populaire, qui est à 4,6%, mais il y a peu de personnes aujourd'hui, enfin peu de personnes, qui ont donc un LEP, et il faut être non imposable globalement pour en bénéficier.
C'est toujours vrai de dire que le livret A reste le placement préféré des Français, la plupart en ont un aujourd'hui encore?
4 Français sur 5 ont un livret A, donc c'est toujours le produit le plus largement diffusé, même si ce n'est pas le premier produit en volume, c'est l'assurance vie avec plus de 1800 milliards d'euros d'encours qui est le premier produit d'épargne en France. Mais là, il y a 1 Français sur 2 qui a un contrat d'assurance vie quand il y en a 4 sur 5 qui ont un livret A.
Qui ouvre un livret A aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que c'est encore le compte d'épargne, par exemple, qu'on va ouvrir pour l'anniversaire du petit dernier, Philippe Crevel?
Cela fonctionne toujours. On ouvre toujours des livrets A à la naissance des enfants. Et puis, quand on arrive à 16 ans, à 18 ans, si on n'en a pas, on en ouvre un. Il y a énormément de jeunes qui, aujourd'hui, souscrivent un livret A. C'est en fait le premier moyen d'épargne, le premier outil d'épargne. Ça ouvre la porte sur l'ensemble des autres produits.
Quel est l'encours moyen du livret A, pour se donner une idée? Aujourd'hui, vous avez un chiffre, Philippe Crevel, peut-être?
Moyen est de 5000 euros à peu près sur le livret A. Alors cela ne traduit pas forcément la réalité parce qu'il y a beaucoup de livrets A qui sont inactifs, hein, qui sont un peu délaissés.
Oui.
Mais donc on est à 5000 euros en moyenne sur un livret A.
5000 euros pour un plafond, on le rappelle, d'un peu moins de 23 000 euros.
21 950 euros.
Oui. Ouais, et jusqu'à 76 500 pour les associations, hein, si on est une association. Ce réflexe d'épargne, Philippe Crevel, c'est pas très bon pour la consommation, c'est pas très bon pour la croissance, si ça se poursuit, cette tendance.
Il ne faut pas opposer épargne et croissance. Le mettre de l'argent sur son livret A, ce n'est pas le mettre sous son matelas. L'argent va être utilisé. Mmh. Le livret A, ça finance le logement social, et c'est important. Ça signifie des investissements, de la réhabilitation de logements. Ça également finance les collectivités locales et puis les entreprises, en particulier avec le livret de développement durable et solidaire. Donc cet argent est utilisé. Certes, ce n'est pas de la consommation, hein, qui est un des moteurs importants de la croissance, mais ça va financer l'investissement. Et on a besoin aujourd'hui d'investissement pour la transition énergétique en particulier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer épargne et croissance.
Ouais, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau relèvement du taux du livret A dans les mois qui viennent ?
On peut s'attendre évidemment à un nouveau relèvement du livret A au 1er février prochain, compte tenu malheureusement de l'inflation et compte tenu également de la hausse des taux d'intérêt, parce que ce sont les deux facteurs qui déterminent le taux du livret A, et sans nul doute, on devrait être autour de 3% le 1er février prochain.
Un mot sur un autre produit d'épargne, Philippe Crevel, je pense au plan d'épargne logement. La Cour des comptes s'en prend aux vieux PEL, en particulier ceux qui ont été ouverts avant 2011 et donc qui permettent d'accumuler des intérêts sans limitation de durée. Les sages de la Cour des comptes estiment que le système a été dévoyé, qu'au lieu de financer finalement l'acquisition de sa résidence principale, c'est devenu un pur produit d'épargne de long terme. Ça veut dire que le PEL, dans sa forme actuelle, est menacé ?
Cela fait longtemps que la Cour des comptes souligne un petit peu l'utilisation abusive du PEL comme produit d'épargne et non plus comme produit d'accès au logement. Donc ce n'est pas nouveau. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a réfléchi pour justement modifier ce produit. Il a toujours donc refusé de le faire pour aller dans le sens de la Cour des comptes, parce que le PEL, c'est un contrat. Et donc logiquement, on ne peut pas modifier de manière rétroactive un contrat. C'est vrai pour l'assurance vie, c'est vrai pour le PEL. Et puis, s'il a été en fait un peu dévoyé, c'est que les conditions d'utilisation pour le logement, en particulier le taux des prêts, étaient extrêmement peu intéressant, et donc les ménages ne l'ont pas utilisé pour financer donc une opération logement. Donc c'est, je dirais que le problème du PEL est assez complexe. Ça vaut pour les vieux PEL et non pas pour les nouveaux, dont le taux de rendement est extrêmement faible, 1% est fiscalisé et la prime a été même supprimée.
Merci Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne sur Europe 1.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe 1, il est 6h49.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissa Mbida, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissa.
Bonjour à tous.
Votre innovation du jour, ce sont les opérateurs télécoms qui nous préparent une nouvelle façon de communiquer. Tiens, après les appels vocaux, les SMS, la visioconférence, voici maintenant les hologrammes.
Ben oui, l'objectif c'est de faire comme dans les films de science-fiction, c'est-à-dire qu'on pourra discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, mais on a l'impression qu'il est là, vraiment devant soi. Il y a une démonstration qui vient d'être effectuée par les quatre plus grands opérateurs européens, donc Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica. Alors, on est encore en phase de développement, rien ne sera commercialisé avant 1 ou 2 ans, mais ils sont persuadés de tenir la prochaine révolution en matière de communication. Pourquoi ? Et parce que comme l'hologramme est en 3D, le contact visuel sera beaucoup plus naturel et on sera davantage immergé dans la communication. Donc ça devrait être plus agréable que nos visios Zoom, Teams et consorts.
Alors comment on les visualise ces hologrammes ?
C'est là le problème. Pour envoyer son image, sa propre image, c'est classique. On utilise son téléphone comme pour faire de la visio. Mais pour voir son interlocuteur en 3D qui flotte devant soi, il faut absolument porter des lunettes de réalité virtuelle. D'accord. Vous savez, celles qui sont capables de vous projeter une image dans le champ de vision. Et là encore, ils sont persuadés que dans quelques années, il y en aura partout. Mais ça fait quand même beaucoup de paris. Je rappelle que la caméra en façade existe sur les téléphones depuis les années 2000, il y a plus de 20 ans. À l'époque, c'était déjà une lubie des opérateurs. Ils voulaient nous pousser à faire des visioconférences, il y a 20 ans. Sauf que les gens préféraient faire des selfies avec cette caméra en façade. Et ce n'est que très récemment, avec les confinements notamment, qu'on s'est mis à la visio.
Ouais, alors du coup, si on vous écoute, Anissa, il y a peu de chances que ça marche.
L'avenir est imprévisible, vous savez. Donc on verra. Je note simplement qu'on utilise de moins en moins son téléphone pour les communications en direct. direct, un appel vocal ou un appel en visio. On privilégie plutôt les communications en décalé, vous savez, les mails, les SMS, WhatsApp. Pourquoi ? Mais parce qu'on est plus à l'aise, hein, parce qu'on peut prendre son temps, on contrôle parfaitement ce qu'on va répondre au lieu d'être obligé de répondre en direct du tac au tac. Et surtout, ben on n'est plus obligé de montrer son visage ou de laisser entendre sa voix. Et ça, c'est confortable.
On attend, on patiente et on verra bien. Donc, merci beaucoup, Anissa Mbida. C'était l'innovation.
Europe Matin.
6h51, le journal permanent, Alban Le Prince.
Giorgia Meloni, 45 ans, va-t-elle prendre la direction du prochain gouvernement italien ? L'ultra-conservatrice revendique la victoire des élections législatives qui se sont déroulées hier. Le budget 2023 présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, même chose pour le financement de la sécurité sociale, alors que le gouvernement table sur un déficit ramené à 6,8 milliards d'euros. Et puis en Russie, Vladimir Poutine alourdit les peines pour reddition en les faisant passer à 10 ans de prison. Aussi, pour recruter plus d'hommes, il a également signé ce week-end une loi facilitant l'accès à la nationalité russe en échange d'un an d'engagement dans l'armée.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
Fenêtre sur le monde, au petit déjeuner, c'est votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Algérie avec notre correspondant Nour Chahine. Bonjour.
Bonjour.
À la une des journaux algériens ce matin.
Eh bien, la presse revient sur le discours du président Tebboune face au Wallis, l'équivalent de préfet en France. Un discours aux allures de bilan de mi-mandat, commente TSA. Le site précise que c'est la troisième fois que le président de la République s'adresse à ses commis de l'État. Son intervention fut ponctuée de promesses envers le peuple. Salaire, pension de retraite et allocation chômage, tout va augmenter d'ici l'année prochaine, précise le Jour d'Algérie. Des augmentations qui interviendront début 2023 pour faire face à la dégradation du pouvoir d'achat subi par les ménages. À ce propos, le site Algérie Echo reprend cette phrase du discours du président. Nous continuerons à lever l'injustice contre le citoyen, une promesse qui pourra se matérialiser sans grande difficulté grâce à la hausse des revenus des hydrocarbures constatée ces derniers mois.
Partons en Chine avec vous, Sébastien Lebelzik, les gros titres de la presse chinoise.
Alors c'est le blues de la jeunesse chinoise qui fait la une de l'actualité aujourd'hui en Chine avec une série de reportages dans les magazines comme Sixstone hein, qui a suivi plusieurs jeunes au chômage qui se sont reconvertis dans la vente à la sauvette. Tous les soirs ils s'installent en pleine rue pour vendre des gadgets, des vêtements contrefaits et des pâtisseries faites maison. L'objectif, eh bien, c'est de survivre alors que, comme le rappelle le journal économique Caixin, 20% des moins de 24 ans en Chine sont au chômage, un chiffre sans précédent. D'autres veulent fuir la pression qui pèse sur eux et le Shanghai Daily a suivi plusieurs jeunes qui ont fui la ville pour une longue retraite dans un monastère. On compte plus de 3000 monastères bouddhistes isolés dans les campagnes chinoises, sans eau courante, sans électricité et évidemment sans téléphone portable. Je revis, explique l'un de ces jeunes interrogé par le magazine.
Direction enfin la Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Que lit-on chez vous dans les journaux ce matin ?
À la une ici, la construction d'une station de métro qui rencontre une forte opposition. Ce nouvel arrêt se situera à Exarchia, quartier historiquement contestataire au centre d'Athènes où les travaux ont commencé. Ce week-end, ils étaient des milliers à défiler, écrit le journal de gauche Liavi, qui parle d'un rassemblement massif. Ces manifestations se multiplient, mais pour la énième fois, la mobilisation a essuyé une attaque policière, souligne le quotidien Efsine. Selon le journal Ikathemerini, des individus ont lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Les riverains jamais consultés, précise le quotidien, refusent la construction d'une station de métro sur la place centrale du quartier. Ils dénoncent la réduction de l'espace public, l'abattage d'arbres et craignent une gentrification accélérée. Les habitants pointent aussi la présence policière aux abords du site. On apprend dans le journal économique Inaftem Boriki que les travaux devraient durer au moins 8 ans.
Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. 6h54, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. Okay.
Europe Matin,
6h57, excellente matinée, l'écoute d'Europe 1.
Vous retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambline, comment
allez-vous ? Ça va bien.